Vous écoutez
RMC.
RMC.
On essaye d'avoir plusieurs flèches à notre arc ou plusieurs quoi, je sais pas comment. Mais voilà, on essaye d'avoir plusieurs armes.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Ça serait pas mal de voir l'effectif et avoir une autre flèche à son arc.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est bien sûr, on l'aime bien. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'after en direct sur RMC, 7 jours sur 7 jusqu'à minuit et 24 heures sur 24 en podcast. La semaine, Riolo Le Plat se poursuit. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et salut Thibaut.
Camarade, bonsoir, on dirait un duo comique.
Ah oui?
C'est un peu duo comique.
Moi, j'ai pas prévu de rigoler ce soir, je préviens.
Oui, je sens qu'il est.
Ah ouais, là, il y a.
Il est un peu charfant.
Est-ce qu'il y a autre chose que cette sombre histoire de badge perdu hier soir, Daniel?
Perdu ou volé?
Ça te fait rigoler, toi, ça?
Bah non, est-ce que j'ai l'air de rigoler?
Dit que j'avais pas envie de rire, tu me rappelles un mauvais souvenir.
Aïe, aïe, aïe.
Voilà.
Il y a autre chose ou pas?
On m'a volé mon badge.
Peut-être qu'il est tombé derrière la poubelle, on sait pas. Peut-être.
Vous n'êtes pas obligé de raconter
l'enquête
les petites histoires ridicules de nos coulisses.
Au moins, ça t'aura déridé. Ça t'aura déridé pour le sommaire, c'est bon. Au programme, dans un instant, les JO. On connaît les adversaires de l'équipe de France pour le tournoi olympique. Je vais vous les donner. Et beaucoup de choses ont été dites ce soir.
C'est vraiment un truc de ouf aujourd'hui, ça.
Non, mais justement, la suite.
C'est incroyable.
À la suite.
J'ai l'impression que je suis passé à côté du truc de l'année.
Alors.
Moi, j'ai honte parce que je m'y suis pas intéressé. Je plaide coupable. Hein.
Alors, je plaide coupable aussi.
Je ne vais pas me faire arrêter, non. Je vais avoir un gage, une punition, une amende et tout.
Je propose un vote à main levée.
À un moment, j'ai zappé sur France 3, là. J'ai vu Thierry Henry avec Fabien Lévesque et tout. Et puis, au bout de deux secondes, j'ai re-zappé. Et je dis, là, je crois que tu as fait une énorme connerie. Tu aurais dû rester sur la chaîne. J'ai raté le tirage.
Je propose un vote à main levée.
J'ai vu qu'il y avait France,
qui s'en fout.
USA. Il n'y avait pas Mali aussi?
Non, ce sera Guinée ou un barragiste asiatique. Enfin, Guinée ou un asiatique face à la Guinée.
Ouais. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce tirage, c'est quoi? Ça me semblait pas être un truc un peu sérieux. Mmh. Et après, j'ai vu que c'était les JO. Et là, je me suis senti hyper coupable.
Alors écoute, Daniel, moi je te rejoins, je m'en fous un petit peu. Mais beaucoup de choses ont été dites ce soir d'importance. Non.
Sur les JO.
De Philippe Diallo qui dit vouloir aller à Madrid, convaincre Florentino Pérez de lâcher Mbappé, en quelque sorte. À Thierry Henry qui ne ferme pas la porte à Benzema cet été. Là-dessus, ça fait quand même pas mal de choses avec lesquelles débattre dans un instant.
Des trucs, alors.
On analyse tout ça avec vous.
On a deux de parler de Mbappé. Ouais.
Ah ouais, là quand même.
Pas loin. Pas loin.
Bah ouais. Donc Diallo, il va aller voir Florentino Pérez.
Il a dit que s'il fallait y aller, il irait. C'est ça la déclaration.
Florentino Pérez, il va le voir arriver, il va prendre peur déjà. Il va dire où Gustavo Frings, qu'est-ce qu'il me veut. je parle pas avec les trafiquants. Bon, pour ceux qui ont la ref, évidemment.
Sinon, vous allez sur Google. On passera dans quelques minutes.
Google, ouais.
Et beaucoup moins drôle, malheureusement. Mais un coup de fil en Turquie, on sera en direct avec un journaliste pour faire le point sur la situation sur place à la suite des graves incidents du week-end dernier.
Et Benzema, par rapport à Henri qui ne lui ferme pas la porte. Moi, je l'ai dit hier soir, je kifferais. C'est tellement croustillant d'imaginer qu'un Henri puisse faire ça et que Deschamps ne puisse rien dire.
Moi, j'ai du mal à imaginer.
J'ai totalement du mal à y croire. Je ne l'y crois pas. Mais ça me fait marrer d'y croire.
Qu'un troll de Benzema. On a vu, c'est plus un troll de Benzema.
Ah ouais, bah écoute, je sais pas.
On pourra en reparler dans quelques instants. L'arbitrage également au programme ce soir. Êtes-vous convaincu par les nouvelles directives? Je vous les rappelle tout à l'heure, on en débat au 32-16. Et en deuxième heure, avis tranché de Thibaut Leplat sur les agents bouc émissaire du foot business, selon toi, Thibaut. Tu nous expliqueras tout ça. Et puis on recevra Jean-Baptiste Guégan, pas le chanteur, mais l'auteur, qui sort un livre, Révolution Mbappé. Justement, Mbappé révolutionne-t-il le foot? On vous attend au 32-16 sur ces sujets.
Vous venez quand, vous invitez?
Comme sur tous les autres, après 23h, deuxième heure.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. Je pense que j'étais déjà là, et puis je ne l'avais pas vu dans le couloir. C'est peut-être eux qui m'avaient échoué mon badge.
Non, c'est hier soir, après Eric.
Et les gants aussi, d'ailleurs.
On attend les expertises ADN encore, on n'a pas le résultat.
Un des deux gants, c'est ça?
Non, les deux gants, plus le badge.
Moi, une fois,
très bizarre comme vol.
Mes lunettes aussi, mes lunettes de soleil.
Ici?
Ouais, elle est disparue une fois.
Ah, j'aurais peut-être un.
J'accuse personne.
Ah, si, c'est qu'elle a.
J'ai dit juste qu'elle était là et ensuite elle n'était plus là.
Vous savez quoi, les gars?
Ça, c'est fou.
Je vais aller sur Le Bon Coin en direct, voir si je trouve pas un badge et un gant de Daniel Riolo à vendre. et à combien. Sur tous ces sujets, le 32-16, bien évidemment, Max est là au standard ce soir. N'hésitez pas, je vous l'ai également sur le Direct Studio et bien évidemment sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot. Vous êtes déjà nombreux ce soir à 22h. Merci d'être là. N'hésitez pas à venir nous voir.
Savoir, on est déjà nombreux ou pas. À chaque fois, tu dis ça, mais comment tu sais ça?
Je le sais parce que regarde sur YouTube, que j'ai devant moi, j'ai un écran.
Ouais.
Et en bas, j'ai le nombre de visionnages en cours, tu vois.
Ça va reprendre. YouTube, tu connais?
Oui, quand même.
D'accord. Voilà. Et là, on est 8 millions 5 d'après le. et vous dire également qu'on a un jeu, c'est l'expérience RMC, puisque le mercredi 10 avril, Paris va affronter le Barça en quart de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes. Et on vous propose de vivre l'expérience RMC, visite des studios RMC, rencontre des équipes avec interdiction de toucher au badge et au gant de Daniel, vivre le match au Parc des Princes et assister au débrief du match dans l'after, dans les studios d'RMC. Dès que vous entendez ça, vous aurez 100 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16 pour vous inscrire. Vos places pour PSG Barcelone se gagnent uniquement sur RMC. 22h06, l'after, les JO. Le groupe des Bleus, Nouvelle-Zélande, États-Unis et un barragiste, donc continent africain, continent asiatique. On se dit qu'on en a déjà parlé, on passe à Benzema, ça vous va?
Le principe de commenter un tirage au sort, je ne veux pas être contre-productif ni ne pas être corporate. C'est vrai que j'ai toujours du mal à commenter comme tirer au dé, quoi. Bon, j'ai fait 3, t'as fait un 3, voilà, j'ai fait t'aurais pu être un 4.
Non, mais si tu fais un 3, quand même de grandes chances que je te batte sur un dé.
Peut-être j'aurais dû faire une chance sur deux.
Je te batte.
J'aurais dû faire au moins un 4.
Ton exemple n'est pas bon parce qu'il m'a donné une possibilité.
J'aurais dû faire un 4.
Tente autre chose.
Je relance 4, tu vois.
Mais c'est surtout que les équipes olympiques, on les connaît pas. Tu veux parler de quoi? Tu les connais, toi, l'équipe olympique des States? L'équipe olympique de l'Égypte ou de je sais pas quoi là?
Non, mais je sais qu'un groupe comme ça en basket, on aurait été mal avec les États-Unis.
Est-ce que par exemple savoir que l'Égypte a fait médaille en 1924, est-ce que c'est important? 24. Non, 28. C'est important de savoir ça ou pas?
Non, mais je sais que l'équipe de France de waterpolo était championne olympique en 1924. Voilà. Ça n'a aucun rapport, mais
oui, alors, vraiment, c'est ça.
Au quatrième, et c'est en 24.
D'accord, très bien.
Non, j'ai regardé tout à l'heure.
L'info.
J'ai noté. Ah bah attends.
Donc ça c'est fait, c'est dit.
Voilà, donc
passons à Benzema.
On ne connaît pas les équipes, on ne sait même pas de quoi sera faite l'équipe de France.
Exactement.
Déjà.
C'est pour ça qu'on passe sur l'équipe de France. Je vous rappelle Benzema, on vous le disait dès hier soir dans la
foule. On ne sait même pas s'ils vont pouvoir avoir les cracks, parce que ça dépend de Diallo et de la négo, quand il ira à Madrid.
A priori, il devrait y avoir les JO. Normalement, les JO, c'est bon.
Ce qu'on sait, c'est sûr, c'est les JO, c'est bon.
C'est la baignade dans la Seine, on ne sait pas encore.
Ça, on ne sait pas. Le tournoi de foot, c'est bon, on sait où ça va jouer et tout. Ça, voilà, là on a des infos là-dessus.
Oui, c'est bon.
Voilà.
J'aime bien. Ils sont en train de me détruire ma page JO. Mais en même temps, je peux pas. Je suis assez d'accord. Non, mais écoutons quand même ce soir ce que dit donc Thierry Henry, qui était dans Rotten sans flamme.
De toute façon, faut l'écouter.
Bon, bah, ça fait plaisir, Daniel.
Ah oui, quand même.
Qui réagit donc à ce qu'a déclaré hier Karim Benzema, nos confrères de l'équipe. Benzema a dit, je cite, les JO, pourquoi pas? Bien sûr, ça peut être top. Réaction ce soir de Thierry Henry sur RMC, Rotten sans flamme.
Je reviens au même débat, je ne parle de personne, j'ai cité personne, j'ai parlé de personne, ça sera bien élargi. De par le plan A, B, C, D, E, F, G, H. Toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde, c'est juste ça. Qui sera dans la liste, ça aussi c'est encore un autre débat. Ouais.
Toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde.
Ouvertes pour tout le monde, puisqu'il y a des contraintes quand même. Tu peux pas prendre qui tu veux.
Justement, c'est-à-dire que comme tu peux pas prendre qui tu veux, t'as intérêt à brasser large. Tu te fermes aucune porte, c'est plutôt lui qui se ferme aucune porte. Comme il est
oui,
pas sûr.
Au-dessus de 23 ans, il peut prendre que 3 mecs.
Voilà, exactement.
Bon, oui, bah alors. Mais les présidents de Ligue 1 sont pas obligés de lâcher leur jambe, mais c'est pas une date FIFA.
Ah, oui, ok.
Donc il est pas exclu qu'au dernier moment, un changement d'entraîneur, c'est d'ailleurs, il l'avait dit dans la précédente conf, il peut y avoir un changement d'entraîneur, un changement de président, n'importe quoi.
Bon.
Et là, on a énormément d'incertitudes sur cette équipe de France olympique.
Donc, il dit ça ce soir, Henri, évidemment, derrière, tout le monde s'excite. Il ferme pas la porte. Après, évidemment, est-ce qu'on imagine Henri dire non, Benzema, non, quoi qu'il arrive.
Et surtout, si tu
non.
dis ça...
Mais surtout, est-ce que Benzema, en équipe de France, est-ce que Henri doit est-ce que ce sera un renfort pour les Bleus de prendre Benzema parmi ces trois joueurs de plus de 23 ans au JO?
Non, c'est pas, personne ne sait dans quel état de forme est Benzema depuis qu'il est parti de la Coupe du Monde en pleine nuit.
Bah oui, mais ça
fait pas, il joue en Arabie Saoudite, il a eu plein d'embrouilles et il a pas beaucoup joué.
Les stats, les stats, à 20 matchs, 16 buts ou 13 buts, je crois.
On sait rien de lui, on sait pas dans quel état de forme il est. Là, franchement, t'as prévu en fait qu'on perde du temps jusqu'à quelle heure à peu près, Thibaut, juste pour savoir.
Minuit 10.
Donc, bon. Je mets un chrono, tu vois, pour savoir combien de temps on va parler de trucs qu'on sait pas.
Je dirais encore 5-6
minutes. 5-6
minutes,
c'est ça que t'as prévu, donc.
Ouais.
Ah, t'as vraiment rien sur tes feuilles, tout.
Si, si, j'ai quelques trucs.
Attends,
moi,
il bosse depuis tout
moi encore,
à l'heure,
vous avez fait comme hier, vous m'avez envoyé un faux sommaire.
Ah, écoute, faut voir ça avec Jérôme Thomas.
Attends, moi, je relis le.
Mais non, mais j'ai quand même
pas mal de le message. Aller chercher le badge de Daniel,
alors, je relis le message. Alors, tu vois, vraiment, je l'ai là. À aucun moment, il y a JO. Ah, si, il arrive en 1.
Il n'y a pas opération spéciale RMC, JO, tout le monde qui part.
En 6e position, j'ai JO et entre parenthèses à côté, rapide.
Oui. Bah donc c'est
bah pas... franchement si mais en... non mais si
c'est le dernier
non, mais...
truc parce que le
si tu me coupes sort... pas toutes les 10 secondes on aurait peut-être déjà fini Daniel
mais
c'est un peu
de Nadia, c'est bon
non. Dernier truc donc Benzema bon bof toi Thibaut non plus
non je pense bon. Que c'est un troll de Benzema donc
Et Mbappé alors ça c'est on en parle depuis des semaines j'y ai ou pas on sait que le Real Madrid probable futur club de Mbappé a écrit à la Fédé pour dire qu'il libérerait pas ses internationaux pour les jeux parce que ce n'est pas une date FIFA mais donc Philippe Diallo le président de notre Fédé n'a pas dit son dernier mot dans une interview au Figaro il se dit aller voir Florentino Pérez à Madrid pour le convaincre. Il dit, je cite, « Je ne fais pas de la politique fiction. Je ne sais pas où Kylian Mbappé ira. Aucune annonce n'a été faite. Je regrette la position du Real Madrid qui ferme la porte à un rêve de beaucoup de joueurs. S'il faut aller voir Florentino Pérez, on le fera. Évidemment, avoir le meilleur joueur du monde en France pour des jeux à domicile... »
Ça va être quoi ces arguments ?
Serait un formidable... Bah, avoir le meilleur joueur du monde en France.
Les phrases avec les pots de miel et les colliers de fleurs autour, on a bien compris. Mais ça va être quoi son argument ?
Alors c'est peut-être là, c'est la dernière phrase.
Ouais.
Avoir le meilleur joueur du monde en France pour des jeux à domicile serait un formidable atout.
Mais ça, il s'en carte, Pérez, tout ça, lui.
Atout pour qui ?
Et Florentino Pérez, il en a rien à cirer de ça, lui.
Mmh.
Il aura joué l'Euro avant.
Il faudrait que Florentino Pérez y voit un intérêt. Or, c'est pas parce que Mbappé brillerait au JO que ça ferait monter sa cote et
tout. Ce sera pareil pour les autres internationaux.
Il a pas besoin de ça. Un club va donc mettre à dispo un joueur comme ça alors qu'il arrive, qu'il aura pas, donc il va arrêter l'Euro en juillet. Derrière, il y a les vacances. Il faut qu'il revienne pour être prêt pour le tournoi olympique qui va démarrer
le 14 août.
Fin juillet.
Le tournoi de foot termine le 14 août et la saison de Liga reprend le 16.
Après la cérémonie de clôture. Cerveau de couture, c'est le 11.
Oui, non, je crois que c'est le 9 août.
Moi, j'ai arrêté le 14.
Non, mais quel 14? 14, tu seras en vacances, Thibaut. T'as tout mélangé.
Ah, je suis pas sûr.
Tu seras en train de faire le stage de reprise de Pierre Sage et lui dire qu'elle comprend mettre.
Des séminaires de rentrée.
Donc, non, 11 août.
Donc, dans la foulée.
Et la Liga reprend le
14. Il faut à nouveau des vacances. La Liga va reprendre.
9 août.
La Liga va reprendre.
La semaine après.
10 jours après, ou la semaine après. Et donc, le gars n'a pas fait la prépa. Le gars, vous savez, dans ces cas-là, vous mettez à la place de Diallo, et effectivement, vous faites ce que Diallo a dit. C'est-à-dire, vous tentez, tournoi de foot à la maison, les JO, c'est une fois tous les 100 ans, machin, fais-nous kiffer, laisse-nous Mbappé, parce que c'est, voilà. Après, maintenant, tu te mets à la place de Florentino Pérez, tu écoutes, honnêtement, c'est un cadeau 100%.
Ah oui, parce qu'il est pas en ce temps, il est payé.
Pas de prépa. Alors, déjà, il est payé, mais bon. En plus, comme il est payé deux fois le SMIC, pas plus.
Ouais.
Derrière, il fait pas la prépa. Il démarre le championnat. Donc, pour qu'il soit en forme, c'est mi-septembre, au moment où la Ligue des Champions reprend.
Oublions pas le précédent Pedri en Espagne, où Pedri avait fait le même truc Euro plus Jeux Olympiques.
Il se blesse pendant les JO.
Il s'est cramé juste après. Ouais. Il est encore sur le banc.
Il se blesse pendant les JO. Philippe Diallo, il va faire quoi après? Enfin, tu vois, il l'invite au resto pour compenser. Comment ça se passe?
Non, mais surtout, on a l'impression que c'est en train de devenir une affaire d'État, Mbappé à Paris.
Mais il y a des choses. En fait, franchement, il y a des choses.
Non, mais au-delà
simples,
au-delà de.
C'est te mettre à la place des gens. Et tu... Ok.
C'est ce qu'a dit Mbappé. Il a dit.
Quel
j'en ferai
va
pas,
être le dédommagement que la Fédé pourra offrir à Florentino Pérez au Real si jamais le mec, pendant le tournoi olympique, même ne serait-ce qu'un claquage? Toi, même un 3 semaines.
Mais ce qui est sûr qu'il va
arriver. Un 3 semaines plus la rééduque derrière.
Ce
même
qui va ça, arriver, parce
je parle
qu'il...
pas d'un drame, d'une blessure grave, hein.
Ce qui va arriver, parce qu'avec 70 matchs, en une saison, c'était pas possible de.
Je sais pas.
De
moi,
pas
je,
au moins
je comprends le rêve olympique, je comprends le kiff, la France, machin, de ça. Je comprends ce truc-là. Mais de l'autre côté, honnêtement, je suis Florentino Pérez, je suis pas sûr que j'accepte.
Faudrait que ça aille encore, faudrait que ça aille encore plus haut, en fait. Philippe Diallo, éventuellement. Parce que là, j'ai l'impression que c'est en train de devenir que Mbappé, les JO en France, il faut que ce soit là, que ce soit le porte-étendard de ces JO. Et que ça va, c'est en train de tourner
si,
comme ça.
Si Pérez le laisse Mbappé le faire, il faut qu'il laisse les autres aussi le faire. Il y a que les internationaux au Real.
Notamment Camavinga, Tchouaméni, côté français.
Tu peux pas te saigner ton effectif.
Non, mais il peut pas tous les appeler. Il peut pas appeler tout le monde. C'est non, pas, c'est pas l'équipe de France. C'est une équipe de JO.
Oui,
c'est
mais
pas
les Brésiliens, les Bleus, Daniel, les Brésiliens
et les JO.
Daniel, les Brésiliens, ceux qui éventuellement pourraient y participer aussi. Vinicius, qui a plus de 23 ans, il pourrait y participer.
Non, mais
aussi.
C'est trois personnes, en plus.
Oui. Pour l'équipe de France, j'ai compris. Mais il y a d'autres internationaux de d'autres sélections au Real. Donc, s'ils accordent.
Ah oui, d'accord.
Mbappé, il faut qu'il accorde à Vinicius et il faut qu'il accorde.
D'un coup, le Real, il se retrouve avec une moitié d'équipe qui est, enfin.
C'est pour ça.
Ça a pas de sens, au fond. Même chose pour Griezmann avec l'Atlético, même chose, enfin, j'ai du mal à comprendre. Moi, aucun problème, le tournoi olympique, je veux le regarder. En dehors des matchs, les premiers matchs qui ont l'air un peu des matchs en bois, il est clair qu'après, tournoi olympique, on peut trouver que c'est mineur au JO. Il n'empêche que les JO 84, je m'en souviens un petit peu quand même.
Raconte, les JO 84, ils savent les gens que t'étais la famille Riolo.
C'est quoi l'anecdote?
Non, j'étais à Los Angeles. J'ai la famille à Los Angeles, moi. T'sais, les Siciliens sont partout dans le monde. Mmh. Et donc, ils se trouvent.
Donc, t'as vu ça de là-bas, quoi.
Et j'avais eu la chance d'y aller.
Dans l'édito de la revue, raconte ça.
Ah, bon. Oui, effectivement. Mais j'y pensais plus. Et donc, bon, ça, je m'en souviens. Il y a eu d'autres JO, les JO du Cameroun, les JO du Brésil, les JO de Bielsa.
Les JO de Domenech.
Non, ceux-là, pas vraiment de souvenirs de ceux-là.
Ça en rappelle quand même.
Il y a eu des. Françaises. Il y a eu des belles équipes qu'on a vues dans les JO. Il y a eu des beaux tournois olympiques. Ouais. Ok. Mais.
Jamais trop regardé, moi.
Mais peu importe. Mais à la limite, peu importe qu'il y ait des stars ou pas des stars. De toute façon, c'est des joueurs qu'on va connaître. Et ça peut être quand même passionnant.
Tu vois, 22h17, on l'arrête plus, Daniel, sur les JO.
Sur les JO, il est incroyable. Hein.
Moi, ça fait 5 minutes que je veux passer à autre chose. Et Daniel, les JO.
Il a un côté un peu France.
Comme grosse équipe aux JO.
Il a un côté France Télé, quand même.
Par exemple, les Européens, il y a qui? Brésil, ça y est.
Il y a l'Espagne. Non, il n'y a pas le Brésil.
Il n'y a pas l'Argentine.
Ah, il n'y a pas le Brésil.
Non, il n'y a pas le Brésil.
Pardon, je me suis trompé.
Il y a l'Espagne, notamment. Et juste pour conclure là-dessus, j'ai également le tirage au sort à vous donner de l'équipe de France féminine. Hervé Renard, quand même, les gars. Canada, Colombie, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande comme les hommes. Canada, c'est les championnes olympiques en titre, quand même.
Il n'y a pas la Côte d'Ivoire?
Écoute, j'ai pas tout le truc.
Non, parce que c'est sûr, Hervé Renard, ça pourrait être, il pourrait diriger les filles, et puis hop, à un moment, la Côte d'Ivoire, et il fait les deux équipes dans le même tournoi.
C'est pas tout le monde est au même endroit, donc c'est plus pratique. Hein.
Bon, en tout cas, toutes les réactions à ce tirage au sort en longueur, les podcasts de Génération After, qui étaient en direct du CNOSF, avec beaucoup de réactions en direct, n'hésitez pas si vous voulez encore plus de JO.
Avec Walid y était pour le tirage au sort.
Ouais, il y avait Kevin aussi.
Il était en transe sur le tirage au sort du tournoi féminin.
Mais tout le monde un petit
ils veulent le prendre comme mascotte, il paraît.
Ah, carrément ?
Ouais. Ils parlent de ça, ouais.
Il y a plus de chances de voir.
Il n'y a pas une mascotte déjà au JO ?
Non, mais que l'équipe de foot féminine aurait une mascotte à elle, quoi. Et ce serait Walid.
D'accord. Ouais. En même temps, Walid, oui.
Il aurait des porte-clés.
On le voit bien en mascotte. Il a un côté mascotte. Et on l'embrasse évidemment s'il nous écoute. 22h18, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat. On est en direct jusqu'à minuit. Dans un instant, on va aller en Turquie. Les dernières nouvelles après les violences du week-end avec un journaliste sur place qui va nous raconter. Il y a 2 heures d'écart, donc c'est pour ça qu'on va lui passer un petit coup de fil maintenant. Et ensuite, l'arbitrage. Vous êtes sur RMC, ne changez rien, on se retrouve dans un instant.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Thibault Giangrande.
22h22, vous êtes sur RMC. Merci beaucoup en direct à la radio, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Tiens, parmi les messages, j'ai vu passer un message de Guillaume. Avez-vous vu le groupe de la France pour les JO? Ouais, on l'a vu, Guillaume. On en a parlé. Merci beaucoup. À suivre, les nouvelles directives de l'arbitrage avec Daniel Riolo et Thibault Leplat ce soir. Anthony Gauthier en a parlé. Je vous explique tout et on en débat avec vous au 32-16. Mais d'abord, les gars, direction la Turquie.
Tous les ans, les nouvelles directives. Arbitrage. Je ne comprends pas ça. Ça devrait quand même être quelque chose d'assez clair. On n'a pas besoin à chaque fois de donner les directives.
Ah ben là, ça se passe mal en ce moment.
Je comprends pas.
La Turquie, les gars. Et ces images complètement folles. Hein. Difficile d'être passé à côté ce week-end. L'envahissement du terrain après un Trabzonspor Fenerbahçe dimanche. Des supporters de Trabzon qui ont attaqué les joueurs du Fener qui fêtaient leur victoire. Le gardien Livakovic a pris un coup de poing au visage. Vous avez peut-être vu la tentative de coup de pied retourné de Batshuayi sur un supporter où ce joueur du Fener, Osayis Samuel, en train de frapper un supporter. supporters à terre. Presque un miracle finalement qu'il n'y ait pas eu plus de dégâts humains, des violences inouïes, sachant qu'on se rappelle qu'il y a 3 mois, le président d'Ankara avait agressé un arbitre, les joueurs également. Où en est la Turquie avec son football, avec ses supporters? On est en direct avec Youssouf Salik, journaliste à Aspor, une chaîne sportive en Turquie. Bonsoir Youssouf.
Bonsoir Thibaut, bonsoir Daniel et Thibaut aussi.
Salut. Ouais, salut. Merci beaucoup de prendre quelques minutes. Oui, plus 2 heures, c'est ça, minuit et demi. C'est pour ça qu'on vient de voir un peu plus tôt.
Ouais. C'est gentil de me laisser un peu de sommeil.
Merci à toi surtout de passer quelques minutes ce soir sur RMC. Bon, on en est où là, 3 jours après? On sait qu'il y a eu des arrestations notamment.
Oui, il y a eu 5 arrestations. Il y a des l'enquête suit au niveau footballistique. Et on va voir ce que va faire la fédération. Ça n'a pas encore été annoncé. Bon, c'est un gros choc, mais bon. Comme tu l'as dit, hein, il y a 3 mois, il y a un président de club qui est allé à taper un arbitre sur le terrain. Il y a plein de crises qui se passent en Turquie. On est plutôt habitué à ce genre de choses. Et là, bah, là, c'est un peu la goutte qui fait déborder la vase. On va voir ce qui va se passer. Fenerbahçe menace de se retirer.
D'accord, mais le vase qui déborde, ça peut donner quoi? Il peut y avoir des grosses sanctions, le championnat peut s'arrêter, des équipes peuvent arrêter de jouer au foot. Parce qu'en fait, ce qu'on savait de la Turquie, l'image qu'on avait, c'était les tribunes très chaudes, donc forcément des rivalités et des luttes entre supporters, on pouvait les envisager. Mais là, ce qui est complètement différent, c'est des supporters qui rentrent sur la pelouse pour taper des joueurs qui se défendent et qui tapent des supporters, des présidents qui tapent des arbitres. Là, c'est sur le terrain qu'il y a de la violence. C'est pas exactement la même chose, quand même.
Non, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un reflet. Donc, oui, il y a des stades où l'ambiance était chaude et que les supporters étaient un peu excessifs. Mais bon, là, c'est plus.
C'est quoi les circonstances sportives là de cette affaire-là? Pourquoi ça dégénère?
Sportivement, il faut aller en arrière. C'est depuis très très longtemps, ça va faire 40 ans qu'il y a une rivalité entre Trabzonspor et Fenerbahçe. Une rivalité qui a grandi. Après, il y a eu l'affaire des matchs truqués qui a été en fait en 2011 entre Fenerbahçe et Trabzonspor. Et cette affaire semble être un coup monté. Donc, il y a plein d'antécédents sur cette rivalité. Et qui font que ces deux clubs-là ne se supportent plus. Mais bon, à chaque fois, c'est quand même sur le terrain de Trabzonspor qu'il y a des échauffourées.
C'est Istanbul aussi, Trabzonspor, c'est Istanbul?
Non, c'est une autre ville dans le nord-est.
Je connais pas.
C'est Trabzon, c'est d'accord. Nord-ouest, okay, d'accord, nord-est de la Turquie.
Ok, donc c'est même pas.
Daniel, niveau sanctions, je sais pas parce que bon, en 2015, il y a le bus de Fenerbahçe qui a été fusillé au retour d'un déplacement
fusillé,
sur la route de Trabzon. Oui, fusillé. Le chauffeur a été touché. La sécurité a réussi à stopper le bus au dernier moment. Il y avait 40 personnes dedans, donc ils ont juste frôlé la mort. Et le championnat s'est arrêté une semaine. Donc,
une semaine
ici, ouais. Donc ici les règles sont un peu mises à côté. Enfin, ça dépend des clubs en fait. Tu vois, là, Fenerbahçe se sont un peu esselés. Il n'y a pas eu de réaction au niveau politique. Il n'y a pas eu de réaction au niveau du ministère.
T'es en train de dire que l'événement qui s'est passé là, ça n'a pas fait un tollé. Ça ne fait pas la une de l'équivalent du journal de 20h ici. C'est pas la une des journaux. On ne crie pas au scandale. Le président de la fédération, le ministre, le président, tout le monde s'en fout.
Ça n'a pas crié au scandale. Il y en a qui ont crié au scandale. Il y en a qui ont dit que les joueurs de foot ne devaient pas provoquer les supporters. Donc, c'est un peu une ambiance mitigée ici. Donc non, il n'y a pas eu de sortie de ministre ou du président de la fédération. Par exemple, le président de la fédération n'a toujours pas fait de déclaration sur ce sujet-là. Le ministre de sport non plus. Donc on attend un peu. On attend un peu le feu vert.
Youssouf Salik, journaliste à Aspor en Turquie, est en direct sur RMC.
Si ça suscite pas d'indignation, si on crie pas au scandale. Bon, alors ça peut continuer tranquillement, et puis quand il y aura des morts, on fera un autre bilan alors.
Il y a un peu comment dire, un traitement d'actualité à deux vitesses ici. Bon, quand ça concerne Fenerbahçe, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que Fenerbahçe veut se retirer de la Super League, parce que le club se sent esselé. Le club a eu plein de trucs, plein de crises comme ça, qui n'ont pas été résolues, qui n'ont pas eu l'impact espéré par les supporters du club.
Mais pourquoi c'est un club qui n'est pas aimé en Turquie, Fenerbahçe?
Ouais, ça doit être le club le plus détesté, je pense, en ce moment-là. Mm-hmm. Je pense qu'il y a une vraie haine anti-Fenerbahçe en Turquie. Je ne saurais pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi il y a cette haine, mais il y a quand même un gros sentiment contre Fenerbahçe. Et ça se ressent quoi dans les sanctions, ça se ressent dans les réactions. Donc forcément, au bout d'un moment, le club fait... Le club réagit aussi à sa manière, quoi.
Est-ce que, Youssouf, tu mets ces violences dans les stades en rapport avec ce qui se passe de manière plus générale en Turquie? Est-ce que ces événements arrivent dans un moment où en Turquie, il y a peut-être plus de violence aussi, un climat politique dégradé?
Il n'y a pas plus de violence en Turquie. Il y en a toujours eu des violences en Turquie. Donc, je ne pense pas que ce soit un reflet du climat actuel. Bon, oui, il y a des choses qui sont pas désirables, qui sont d'actualité en Turquie. Ça, je le nie pas. Mais bon, après, ça, c'est vraiment entre Fenerbahçe et les autres clubs. C'est vraiment entre Fenerbahçe et Trabzonspor. C'est vraiment ça peut être un reflet politique sur le football. Je peux le concéder. Mais bon, après, je sais pas si ça va se résoudre, si le climat s'apaisit en Turquie, si jamais les choses vont mieux. Je sais pas si ça va aller dans le même sens dans le football, quoi. Il y a des problèmes dans le foot turc qui ne sont pas résolus, qui ne veulent pas être résolus.
Mais c'est quoi les problèmes quand tu dis il y a des problèmes pas résolus et tout? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait, si personne ne veut régler cette violence, s'il n'y a pas de sanctions? Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
Déjà la méritocratie, donc c'est ça un problème. Les dirigeants, ils viennent pas à leur poste parce qu'ils le méritent, parce qu'ils sont désignés. Donc forcément, ça crée un problème. Après, il y a l'équité. Je pense pas que le championnat soit un championnat équitable pour tous. Donc les décisions changent en termes de couleur, de stade, de joueurs, etc. Et parfois en faveur de Fenerbahçe, parfois en faveur d'autres clubs, mais ça change. Donc ici, il y a un gros problème de justice, je pense, dans le football.
C'est-à-dire que la VAR, elle marche pas pareil pour tout le monde, tout le temps, quoi.
Non, parfois elle marche pas du tout. Forcément, les choses que vous discutez en France sur l'arbitrage, etc. Nous, on le discute depuis 40 ans et on l'a pas résolu. Donc, on change les DTN, on change les gens qui dirigent l'arbitrage, on change la fédération, etc. Mais ça change rien du tout parce que il faut changer le système et ainsi il y a un mal fonctionnement dans le système football de Turquie. Donc, je pense qu'il faut changer ça. C'est ça le problème. C'est que nous, on change pas le système, mais ceux qui sont dedans. Et à chaque fois que les gens arrivent dans le système, ce sont pas des gens qui méritent. Ce sont des gens qui sont un peu pistonnés.
J'ai quand même l'impression, Youssouf, malheureusement, en écoutant ton témoignage là, depuis tout à l'heure, que après les incidents de dimanche, ça va pas aller forcément en s'améliorant. Il n'y a pas de prise de conscience ou quoi que ce soit, et on n'est pas à l'abri après la trêve de revoir ces images là finalement. Pas du tout même.
Non, je pense pas. Ça va faire des mois que je dis la même chose dans les émissions. Ces crises là, si elles ne sont pas résolues, il y a quelqu'un qui va mourir et après, ça va être trop tard. Je pense que ça va dans ce sens-là. Ça aurait pu être le week-end dernier. C'était très, on a frôlé ça, je pense. Les supporters, les joueurs et tout. L'ambiance était malheureusement pas très, 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 très bonne. Mais je pense que non, ça va pas aller dans le bon sens. Il faut dire un stop. Je pense que il faut faire un peu comme l'Angleterre dans les années à la fin des années 80, quand ils ont décidé de ne plus aller en Europe. Avec Thatcher et qu'ils ont décidé de tout faire pour que le foot s'améliore. Il faut améliorer le système. Je pense qu'il faut mettre une grosse claque dans le système footballistique turc pour pouvoir améliorer ça. Mais je pense pas. Je doute qu'on puisse le faire. C'est presque impossible.
En même temps, la FIFA, l'UEFA, il n'y a pas eu de réaction non plus. Il n'y a rien.
Si, moi, je trouve. Si, si. Ah. Si, si. Pardon, la FIFA a réagi.
Ah,
il y a Gianni Infantino. Gianni Infantino a déclaré un message.
Non, mais après les événements ce week-end ou après la dernière fois? Oui, mais là, pour les événements là, oui.
Non, non, c'était pas bien.
Ce week-end. Ce week-end, Infantino a parlé. Il y a FIFPro qui a parlé aussi, l'association des joueurs de foot. Mais il y a des réactions internationales. Après, je ne sais pas si ça va être assez inquiétant pour les dirigeants turcs, pour qu'ils puissent démissionner, parce qu'il n'y a pas eu de démission. La dernière fois, on en a parlé avec l'arbitre qui s'est fait claquer, à qui on a mis un coup de poing, des coups de pied. Il n'y a pas eu de démission, il n'y a toujours pas de prise de conscience, il n'y a toujours pas de prise de responsabilité. Je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. Hein.
La curiosité qu'on peut avoir sur ce qui se passe en Turquie, sur le plan de la violence, non, peut-être à tort ou à raison. Peut-être que nous, de France, on le voit aussi comme une sorte d'avant-garde de la violence dans les stades. Et c'est ce qui nous fait un peu peur quand on voit ça. On se dit, on n'est pas très loin de ça. Pas très, très loin de ça. On voit le même phénomène presque d'anomie, c'est-à-dire presque de désintérêt, de banalisation de cette violence-là. Comme nous, on l'a eu, rappelez-vous, il y a encore pas longtemps, il y a un supporter qui s'est fait poignarder à l'entrée d'un stade. Il y a 2 mois, 3 mois en France.
À Nantes.
Oui. À Nantes. Mmh. Bon, le championnat s'est pas arrêté, on a continué à jouer.
Mais là, il y a une petite différence, c'est que c'est sur le terrain et que ça implique des joueurs.
Je dis qu'il y a une différence de degré, évidemment, il y a une différence de degré, mais c'est la même nature du problème.
Oui, c'est ce qui fait peur. Merci beaucoup, Youssouf, en tout cas. Youssouf Salik, journaliste.
Merci à vous, mais juste un truc, c'est arrivé de la même façon, en fait. Il y a des gens qui ont été poignardés, il y a des gens qui ont été qui sont morts, et après, on est arrivé à ce stade-là, donc ça peut arriver chez vous aussi.
Merci Youssouf, en tout cas, bonne nuit à toi.
Merci
à vous. Très bientôt dans l'after.
Bonne nuit.
À bientôt. Salut Youssouf, bonne nuit à toi. 22h35. C'est l'after avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat. Petite pause et dans un instant, l'arbitrage. Êtes-vous convaincu par les nouvelles directives que je vais vous rappeler dans un instant, les directives d'Anthony Gauthier? Vous nous appelez au 32-16 et on en débat tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibault Giangrande.
Avec les meilleurs qui sont là aussi ce soir, Daniel Riolo, Thibault Leblanc, on est en direct jusqu'à minuit, c'est l'after, direct à la radio sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after. Vous pouvez commenter. Par exemple, il y a Bam Bam qui écrit, et là on va avoir un doute, il écrit: Thibault aurait beaucoup à nous dire sur la philosophie de la violence dans les stades. Alors, comme on est deux Thibault, vraiment, je pense que c'est moi, il parle de moi, mais j'ai un doute, je pense que c'est moi. En tout cas, merci d'être là. On est en direct jusqu'à minuit. À suivre justement l'avis de Thibault Leplat qui concerne les agents, bouc émissaire du foot business selon lui. Mais d'abord, messieurs, dames, arbitrage. Va-t-on vivre une fin de saison plus sereine concernant l'arbitrage? Ces dernières semaines, c'est polémique sur polémique. Le directeur technique Stéphane Lannoy en a fait les frais, il s'est fait virer. Anthony Gauthier reprend la main. Le directeur de l'arbitrage a annoncé hier dans l'équipe vouloir
après avoir tout fait pour virer Lannoy.
Voilà.
D'abord, il y a eu un règlement de compte entre arbitres, qui souvent ne sont pas potes du tout entre eux.
Oui, absolument.
Pas lui casser. Ouais.
Une bonne petite guerre à chaque fois entre arbitres.
Et maintenant que...
Les arbitres, mais...
Oh, pas tous, hein.
De bonne teigne.
Pas tous.
Moi, je ne connais
dans
que
la
le
moitié,
numéro 1.
Dans la moitié est chauve.
Oui. Ou il y en a certains aussi qui ont des coupes des fois.
Ils sont policiers aussi. Ils sont souvent policiers et chauves.
C'est un peu passé la mode des flics. C'était garé bien, on s'améliore plus.
Le taxi, il n'est pas flic?
Ah, peut-être.
Non, si, je crois, le texier...
Non, il est cow-boy, pardon. Bref, les annonces. Donc, il veut une ligne technique claire et précise.
Voilà ce dit qu'on aimerait hier, tous, donc ok.
Nous, on en est dans l'équipe, avec des orientations précises.
Ah.
4. Priorité absolue, nous dit Gauthier. Inciter les arbitres à prendre leurs responsabilités sans attendre systématiquement les consignes de l'assistance vidéo.
Ça, c'était déjà, on l'avait déjà entendu, ça.
C'est déjà les consignes.
Okay. Ça, c'était déjà les consignes d'avant.
2.
Ouais.
Favoriser le jeu et le spectacle avec ouverture et disponibilité auprès des acteurs.
Il y avait déjà ça aussi, on l'a entendu 1000 fois, ça.
Ouais, même le côté.
On l'a entendu 1000 fois.
Très bien. Alors,
sinon, on va pas dire le contraire. Personne va dire ne parlez surtout pas aux joueurs, éloignez-vous.
Bon, à un moment donné, ça a été dans un truc.
À mon avis, le point 4-5, il doit y avoir un truc comme la guerre, c'est mal. Et le point 6, l'eau, ça mouille. Vas-y, non, continue.
On va voir, j'en suis qu'au 3.
Vas-y.
Patience, ouais. Suspense. Rester ferme sur les incontournables.
Hein, ça veut dire quoi, ça?
Carton rouge, les tacs par derrière, tout ça. Voilà.
J'ai rarement vu changer d'avis, donc je.
Vas-y. Et recours à l'assistance vidéo à des fins managériales.
Ça, j'ai pas compris.
Il donne des exemples. Il dit par exemple, dans le temps additionnel, si un penalty est sifflé, même si l'arbitre est sûr de lui, il peut être opportun de se déplacer devant l'écran pour asseoir la décision. De même, si en début de rencontre, un carton rouge est sorti, même si l'arbitre n'a pas de doute, il est autorisé à se déplacer.
Je pense que ça, c'est une énorme connerie. Une énorme connerie. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire, quand tu pars du principe que c'est la vidéo qui va asseoir la décision de l'arbitre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets l'arbitre sous tutelle de la vidéo. Parce que le dernier mot, ça sera la vidéo. Donc les joueurs, le premier truc qu'ils vont faire, quand l'arbitre va siffler un penalty pendant une prolongation, c'est dire « Allez voir la vidéo, allez voir la vidéo !» Pourquoi il n'est pas allé voir la vidéo? Pourquoi il n'est pas allé voir la
donc
vidéo?
Donc ils iront voir la vidéo.
Ils iront voir la vidéo.
La vidéo, ça, il y aura des gens qui auront un regard différent sur la vidéo.
C'est comme l'inverse
toi,
qu'il faut
avec
faire.
Tes potes devant la télé.
C'est l'inverse
donc,
qu'il faut faire.
Donc,
si l'arbitre ne veut pas regarder la vidéo, il ne regarde pas la vidéo. Si l'arbitre décide qu'une vidéo dit quelque chose et que lui a vu autre chose, il impose sa décision à lui. Le problème, depuis le début, c'est que la vidéo sert de réarbitrage. Et donc, elle est l'instance sans arrêt de recours, ce qui fait que l'autorité de l'arbitre est sans cesse contestée à cause de l'outil vidéo.
Là, évidemment, ce dernier point, c'est hyper politique, parce que c'est beaucoup de présidents qui se sont plaints ces dernières semaines, on comprend pas, on envoie des textos aux arbitres, etc. Là, c'est une manière de dire, on est plus dans l'échange.
C'est complètement
ça, en fait.
Absurde dans ces affaires-là, parce qu'encore une fois, on ne réfléchit pas. On achète des gadgets, une fortune qu'on impose à tout le monde et à aucun moment on ne réfléchit à quoi ça sert et ce que ça va changer. La VAR a changé le rapport à l'arbitre. La VAR a changé le rapport au règlement. On a instauré un réarbitrage, c'est-à-dire que maintenant l'arbitre, il y a une instance d'appel pendant un match, donc ça délégitime le pouvoir de l'arbitre. Et en plus, l'arbitrage vidéo en tant que tel est soumis à une dynamique propre. Les relations entre l'arbitre vidéo et l'arbitre de terrain, on l'a bien vu dans le cas de Turpin. Tout ça, c'est impensé. On impose des choses par une sorte de pensée magique, on va dire, il va y avoir une solution technique à un problème philosophique, à savoir l'interprétation. C'est tout simplement un problème d'interprétation. Ça fait 2000 ans que la philo s'intéresse au problème de l'interprétation.
Oui, mais pas dans tous les cas. Il y a des cas de figure où VAR.
Et ça, c'est une erreur.
Résout des.
Non, parce que ça, c'est encore une fois mal pensé. Dans le protocole de VAR, il y a une différence qui est faite entre les fautes objectives et les fautes subjectives. Ce qui est du bullshit, ce qui ne veut absolument rien dire. C'est quoi une faute objective? Dans quelle mesure une faute, ça existe en dehors du règlement, en dehors de l'arbitre? Aucune. Oui. On va lui dire, oui, un ballon qui a passé une ligne. La preuve que non, il y a des cas d'erreur de la goal line technologie. On voit bien que la forme sphérique sur une ligne, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de fois où, selon l'angle de vision, un ballon sur une ligne,
oui,
c'est un rond dans un
cercle. Non, mais en fait,
non, c'est important.
C'est qu'on s'arrête.
On ne peut pas l'appliquer.
Le problème, c'est qu'on s'arrête à croire que des choses sont résolues parce qu'on les a à l'image et que c'est ultra évident. Que ces choses évidentes, on les aurait vues de toute façon. Et que la seule justification à cette chose évidente qu'on ne voit pas ou qu'on n'aurait pas vue, machin, c'est les deux, trois exemples dans l'histoire récente du foot qui ont fait tout basculer, à savoir le but de Lampard, Coupe du Monde 2010.
Mmh. 2006 ou 2010 ?
La main de Maradona. Bon, ça date et tout. En gros, avec la VAR, ça ne serait jamais arrivé. Et il doit y avoir un autre cas comme ça emblématique qui a fait que c'était absolument insupportable de considérer qu'on pouvait continuer.
Bah nous, on a notre France-Allemagne 82, par exemple.
Mais à l'inverse, tu peux prendre de la même façon d'autres cas où il y a eu VAR et où il y a eu des scandales monumentaux.
Oui, mais c'est pas des scandales monumentaux. C'est pas des scandales de même nature.
United Kimpembe, la main, le ballon en tribune, c'est un scandale pour moi à la hauteur de on invente un but à la dernière minute.
On a inventé un pénalty.
C'est un moment où les règles étaient aussi plus floues qu'aujourd'hui.
Mais elles le sont toujours, Thibaut.
Un peu moins quand même.
Mais non, on les change tout le temps.
Parce que
là aujourd'hui, je suis désolé, qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas donné la main pour Lens sur la main de Dante dans le match de samedi soir? Dante fait main, ballon dévié, il n'y a même pas eu corner. La main est là, le ballon va dans le cadre, elle touche la main de Dante et ça va dehors.
Parce qu'on est obsédé.
Il n'y a pas corner et il n'y a pas main. Explique-moi, où est-ce que là, il y a eu une interprétation différente, où est-ce que la règle, elle a changé, j'étais pas
Parce qu'on est obsédé par l'image.
Il y en a plein des cas comme ça.
On est obsédé par l'image.
Oui, mais ce que vous dites pas également, c'est tous les cas où la VAR a réglé des soucis sans lesquels on s'arrête.
Moi, tu n'en sais rien. Peut-être que l'œil nu de l'arbitre l'aurait vu.
C'est.
Puisque de toute façon, l'arbitre maintenant ne siffle pas avant d'avoir vu.
Imagine un hors-jeu. Le nombre de hors-jeux de buts qui ont été validés ou refusés. L'arbitre l'a pas vu puisqu'il a validé le but et qu'il n'était pas valable. Ou l'inverse d'ailleurs.
Non, il laisse filer l'action. Et après, ils vont vérifier. C'est ça le nouveau truc.
Il y a une blessure.
Arrêtons de croire qu'on a résolu un truc, ça n'est pas vrai.
Le Barça-Naples de la semaine dernière, il y a une action aussi mène par hors-jeu de 2 mètres. On attend la fin de l'action. Le ballon revient. Christensen fait un tacle extrêmement dangereux sur Lobotka. Il est sur le point de le blesser alors que l'action aurait dû être arrêtée. Ah oui. Que tout le monde l'avait vu. Ça, c'est un cas qui me semble un cas d'école, un cas extrêmement grave qui prouve l'absurdité de la manière dont
dont on l'utilise.
Dans la VAR change l'application des règles. Quelque chose dont on sait pertinemment à l'œil humain, à l'interprétation qu'il y a hors jeu, on attend que la VAR on fait poursuivre l'action si au cas où dans une autre action la VAR pourrait contredire l'œil humain. Mais je veux te dire, chiche, la VAR contredit l'œil humain, mais on s'en fout, qui est-ce qui décide? Si le recours, si la VAR c'est elle qui décide en dernier terme, effectivement c'est un problème, mais si tu dis que c'est l'arbitre, en théorie c'est ça, sauf que ça se passe pas comme ça. Si c'est l'arbitre qui impose son jugement à la VAR, là ça fonctionne, ça peut fonctionner la VAR. Si lui décide qu'il en a besoin ou pas, le problème c'est que quand il y a eu un cas en Espagne, le fameux Barça, le Real, je sais plus le contre qui c'était, le Real Grenade ou le peu importe, où on a entendu, et ça va être le problème de la sonorisation des arbitres, on a entendu l'échange entre l'arbitre VAR et l'arbitre de terrain. Où l'arbitre VAR dit attends, il y a eu un contact, attends, regarde, il y a une main là, regarde, est-ce que tu vois une main? Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, l'arbitre de terrain? Tu veux qu'ils disent non, c'est du bullshit, on arrête, tu m'as dérangé pour ça? Non, on a déjà vu des mecs s'embrouiller.
Turpin, il leur dit vous me dérangez pas.
Non, mais oui, mais il regarde
le
dire
pas. Qu'il le dérange
mais
pas,
à la limite, je le comprends, Turpin, là-dessus. Le problème, c'est que ça, c'est des cas extrêmes. Mais normalement, même si l'arbitre de terrain est officiellement celui qui a le dernier mot, de fait, ce n'est pas le cas. Parce que quand tu arrives avec un outil aussi puissant que la vidéo, il n'y a personne qui va oser contredire la vidéo.
Oui.
Personne.
Quoi qu'il en soit, on ne va pas revenir en arrière. Donc, on va rester dans la VAR.
J'ai autre chose après vous annoncer.
Le constat qui est évident, c'est que de toute façon, tous les week-ends, et pas seulement en France, mais partout, on a des problèmes d'arbitrage. Donc, que le VAR ne résout pas, que la VAR n'a pas résolu. Puisqu'à l'époque,
moi, je suis toujours favorable à la VAR.
On était au début de l'after, les gens disaient qu'il n'y aurait plus de discussion sur les arbitres, qu'il n'y aurait plus de polémique, qu'on réglerait les problèmes et qu'il y aurait la justice. Aujourd'hui, la seule excuse des défenseurs est de dire, on ne l'utilise pas bien, l'outil n'est pas bien utilisé. Donc, il n'est pas bien utilisé.
L'outil n'est pas pensé.
Aucun endroit dans le monde. Ça veut dire que, non seulement on ne sait pas l'utiliser en France, mais on ne sait pas le faire en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, nulle part, puisqu'il y a les mêmes polémiques partout.
On a su le faire.
Donc ça veut peut-être dire que l'outil.
On a su le faire, Daniel, à l'Euro, rappelle-toi, l'Euro 2021, il y a eu un usage très excellent de la VAR. Il y a eu très peu d'usage, il a été très bien utilisé. Et c'était encore le début de la VAR. En fait, ce qu'on constate avec la VAR, c'est la baisse du niveau de l'arbitrage. C'est-à-dire, plus on avance, plus
c'est normal,
plus ça devient compliqué.
Responsabilisation, voilà, les arbitres, c'est une dynamique à la baisse. Plus bon, ça sert à rien, de toute façon. Si je fais une erreur, je vais être corrigé. Je sais que je laisse filer l'action, et puis après, de toute façon, on me dira, non, il y a hors-jeu. Il y avait une faute là et tout. Donc, en fait, n'importe qui peut arbitrer aujourd'hui. Voilà.
On continue le débat dans un instant. 32-16 si vous voulez y participer. Et justement sur
sans parler des fois où on appelle ou on n'appelle pas.
La sonorisation,
c'est ce qui est absolument délirant. Et ça, même en Ligue des Champions la semaine dernière, on a vu plein de cas où t'étais là dans la télé, tu dis attends mais là il appelle pas là. Personne n'intervient.
Ça a entraîné beaucoup de confusion.
Les gars, combien de matchs on s'est dit ça la semaine dernière?
Réfléchi et que le protocole est mal fait.
On continue le débat dans un instant avec vous tous au 32-16, c'est l'after avec Daniel Riolo, Thibault Leplat, tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Avec Thibaut Leplat, Daniel Riolo, dans quelques minutes, l'avis tranché de Thibaut concernant les agents bouc émissaires du foot business. Il nous développera tout ça dans quelques instants, mais d'abord on conclut sur les nouvelles directives de l'arbitrage annoncées hier par Anthony Gauthier, désormais seul patron de l'arbitrage français. 32-16 si vous voulez réagir. Il restait une annonce que je vous avais pas faite encore. La sonorisation des arbitres. Parce qu'on se souvient, on en avait parlé, vous en aviez parlé l'année dernière dans l'after.
On ne sait plus quoi inventer pour.
L'IFAB avait retoqué la proposition de la France d'équiper les arbitres en micro. Cette fois-ci, l'expérimentation est autorisée par la FIFA pour un test à grande échelle dans plusieurs pays, dont la France. Et donc, pour la prochaine finale de Coupe de France, l'arbitre sera équipé d'un micro et il pourra.
Moi, j'avais proposé à l'époque, j'avais croisé Lannoy dans un match et je lui avais proposé de dire au lieu d'appliquer des mesures absurdes comme ça, à enchaîner les trucs sur la VAR, on sentait bien qu'ils étaient un peu acculés au point de vue de réflexion sur l'usage de la VAR. Je leur avais dit faites un peu de philo. Moi, je suis prêt à venir vous voir et expliquer un peu le problème de l'interprétation. C'est un vrai problème. C'est un
peu. Tu veux dire pendant les matchs ou
en... Non, avant. Ah ouais. Les arbitres.
C'est que 90 minutes un match.
Comprendre que le problème de l'arbitrage, c'est le même problème qu'ont tous les juges. Le problème de l'application d'une loi générale à un cas particulier. Voilà. Il y a toujours des problèmes. C'est toute l'histoire du droit, c'est ça. toute l'histoire de la philosophie du droit et l'arbitrage, c'est ça. On réduit. C'est pour ça que c'est génial le foot, parce que tu peux appliquer des problèmes que tu vois dans toute la société. Et là, le problème de l'arbitrage, et tu pourras mettre des ordinateurs dans les cours d'assises, ça va pas résoudre le problème des homicides. Tu peux mettre des robots dans des écoles à la place des profs parce que ça va plus vite et ça coûte moins cher. Ça résoudra pas le problème de la pédagogie. Donc tu peux mettre des oreillettes, des micros sur les arbitres. Ça va pas régler le problème de la pédagogie des arbitres ou de la connaissance du règlement. Il n'y a pas de solution technique. Il n'y a pas de gadget qui résolve des problèmes philosophiques.
Honnêtement, à part que ça nous fasse marrer et que ça fasse des jingles.
C'est tout.
Honnêtement, nous, on va rigoler parce que dans l'after, on va s'en servir pour faire des trucs comme à l'époque, vous voulez un soin parce qu'il va en avoir des phrases comme ça. C'est un gadget.
À la limite, je trouve, moi, la chose la plus intéressante, je trouve, à la limite, c'est d'avoir des consultants arbitres. Des types qui, pendant les matchs, les Espagnols font ça. Iturralde, notamment. Moi, j'adore écouter Iturralde.
Alors après, faut trouver le bon, Njimi qui, d'une semaine à l'autre, sort les opposés.
Ça, c'est un autre problème, tu vois. Je fais pas le casting, je suis pas directeur de casting.
Ah oui, mais.
C'est trouver un bon consultant qui va t'expliquer le règlement. C'est passionnant, les problèmes de règlement. Tu parles avec des arbitres, c'est passionnant, ils t'expliquent.
Mais oui, c'est vrai, la plupart des gens regardent sans connaître les règles, ça, c'est vrai.
Voilà. Et qu'il y a un type qui soit là, et qui t'explique, voilà, cette situation-là. Moi, j'aurais fait ça, Iturralde, il est intéressant. Il dit, moi, j'aurais pas fait ça, je pense qu'il s'est trompé, qu'il soit quelqu'un vraiment, qui dise vraiment ce qu'il pense. Mais pas pour polémiquer, mais simplement dire, voilà, et comment il a interprété. Et là, tu peux avoir une discussion avec les journalistes, tu peux avoir une discussion avec les joueurs, et éventuellement, l'arbitre peut à la fin se prononcer. Mais c'est pas à l'arbitre de commenter ses propres décisions.
On demande
pas à un juge. Thibaut, on ne demande pas à un juge de commenter ses propres décisions judiciaires. Pourquoi l'arbitre devrait le faire?
Parce que l'arbitre, c'est pas un juge.
C'est un juge civil.
Oui, c'est un juge d'ordre.
Bien sûr que
football.
Si, c'est un juge civil. Bien sûr que
ah
si.
C'est un arbitre. Ah, voilà, c'est pas la même chose.
C'est-à-dire qu'il a un conflit entre deux côtés, il fait en sorte que le jeu puisse continuer à avoir.
Et il va décider de façon arbitraire.
Guillaume est là. Il doit comprendre. Au 32-16.
C'est une dérive, l'arbitre. On va pas faire un cours. J'ai un cours là-dessus qui est.
Salut, bonsoir, toute l'équipe.
Ça va, Guillaume?
Ça va, impeccable.
Bon, sois le bienvenu dans l'after.
Je pense que vous faites une erreur de principe sur les arbitres.
Vas-y.
Les arbitres, c'est le pouvoir moral que vous leur donnez qui est important. C'est-à-dire que les arbitres de rugby, vous leur donnez la possibilité que si ça discute sur eux, ils reculent de 10 mètres la faute. Donc les joueurs de rugby, c'est pas parce que leur éducation est faite qu'ils font que ils ne discutent pas, c'est parce qu'ils ont peur de là, du surplus de la sanction. Donnez cette sanction-là à un arbitre de football. Vous aurez plus Verratti qui vient gueuler pendant 7 ans alors qu'il ne doit pas finir un match parce qu'il doit prendre jaune tous les jours.
Qui ça?
Arrête.
Il est parti.
Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple après, comme d'autres. Il y en a plein d'autres. Moi, j'en ai plein.
Je suis assez d'accord.
Vous avez Vidal, Verratti, Mota qui gueulait toujours sur les arbitres.
C'est insupportable.
Ce genre de type au rugby ne finit pas un match.
C'est insupportable, les chamailleries auprès des arbitres pendant les matchs.
Parce qu'on ne veut pas les protéger.
Il faut dire que c'est une stratégie.
Ne pas les protéger.
C'est une stratégie des joueurs. Mettre la pression sur l'arbitre, on l'entend dans les commentaires régulièrement. Ils mettent la pression sur l'arbitre.
Il n'y a plus de pression. Voilà. Tu mets la pression, tu prends 10 mètres.
Sauf que pour nuancer.
Guillaume,
excuse-moi, mais le rugby n'est vraiment pas le bon exemple. Ouais. Hein. À la Coupe du Monde, au lendemain de l'élimination de l'équipe de France, je n'ai entendu qu'il y a 4 erreurs d'arbitrage.
Non, si.
Ah bon?
C'est important. Ils ont discuté après. On peut discuter après d'une décision, comme vous le faites très bien sur votre chaîne.
D'accord,
sur
mais on me dit que la VAR fonctionne mieux. Et on me dit que la France est éliminée à cause de ça.
Je pense que le rapport au règlement au rugby n'est pas le même.
Le rapport au règlement
du football, c'est que les règles sont très simples.
D'accord, mais moi, je suis contre ce genre de comparaison. Et l'histoire que le rugby, tu recules à 10 mètres et tout, cher Guillaume, moi, je trouve que c'est con. Je vais t'expliquer pourquoi. Le fait de discuter auprès d'un arbitre, comme les joueurs que vous dénoncez, je trouve ça con. Et je ne veux pas qu'on éradique ça du football. Le rugby, je vais caricaturer, il y a 4 pays et 2 cultures.
Ah ça, on est d'accord, bien sûr, évidemment.
Qui jouent à ce sport.
Évidemment.
Le foot, c'est toutes les cultures du monde entier. Et que moi, je l'ai répété pendant des années.
Il y a une
culture
qui consiste à insulter l'arbitre, c'est une culture.
Moi, qu'il y ait des pays... Mais, c'est sur le terrain. On n'en est pas. Après, il y a des règlements pour éviter
tu dérapes
dans la violence.
Je suis d'accord avec toi,
que dans un pays, ça ne se fasse pas et que dans un autre, culturellement, de discuter avec un arbitre de façon véhémente. OK, moi, j'accepte les différentes cultures dans le monde. Tant qu'on ne verse pas dans la violence et que le mec en vient pas à lui coller une tarte. À l'arbitre ensuite.
Je suis un peu sceptique, je suis pas.
Que les Argentins parfois soient des garces sur le terrain, si on caricature en les prenant eux, c'est comme quand on disait à Ibou machin à Martinez, comment il se comporte, Dibou.
Ibou c'est Verratti, Dibou Martinez.
Ouais, qu'est-ce que j'ai dit?
Ibou. Ouais, on a pensé à un autre.
Ouais, bon, le gardien argentin. Ouais. Eh ben, moi, j'ai trouvé que c'était mais ultra déplacé des Français d'aller lui donner des leçons. C'est leur culture à eux de
fêter, regarde, quand,
de compter pas, ça
quand,
comme ça.
Quand certains joueurs allaient tout le temps râler après l'arbitre, t'étais aussi le premier à le dénoncer.
Mais bien sûr, moi, ça ne me plaît pas.
Parce que, jingle,
moi, parce que ma culture à moi me fait penser que parfois, faut pas le faire. Ou même par intelligence, il faut pas le faire.
Je sais pas, la culture d'insulter l'arbitre, c'est pas une culture.
Tu t'as dit qu'il l'insulte. S'il l'insulte, il prend un carton rouge.
Je suis d'accord avec toi.
Mais s'il l'insulte, l'arbitre a qu'à lui mettre un carton.
On veut pas nécessairement
d'un football propre.
On veut pas, on veut pas des policiers à la place des arbitres. Non, on veut pas que le mec soit intouchable. On veut
pas
pouvoir discuter. Quand, par contre, je mets ça sur le dos de la culture, c'est un peu,
écoute,
c'est un argument.
Quand Joël Quiniou, en 86, a mis au bout de 40 secondes, le carton rouge à l'Uruguayen, là, bah, l'Uruguayen, il a regardé Quiniou et il s'est dit, il descend de la lune, le mec, ou quoi? Et là, on a vu que lui,
c'est directif de la FIFA.
Que lui, Uruguayen, avec sa culture et tout, avait fait un truc en se disant, ouais, je vais mettre le taquet dans la première minute parce que chez nous, ça se fait et on risque rien. Et il est tombé sur un arbitre qui avait pas la même vision que lui. Il lui a foutu un carton rouge. Eh ben, écoute, c'est resté dans l'histoire. Ça ne me gêne pas. Les Uruguayens, je pense, en rigolent encore. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de corruption, qu'il n'y a pas de violence
physique.
C'est pas culturel,
la corruption, c'est...
Pardon?
Dans ce cas-là, la corruption, c'est culturel aussi. Offrir une voiture. Bah oui, mais l'argument culturel, c'est non, ça. Bah, le relativisme culturel le plus complet.
Bah, le relativisme culturel, il fait pas qu'en Argentine,
c'est la culture d'inviter le mec au resto. Ah, bah non, mais c'est la culture.
Non, c'est pas illégal.
Les primes intersero en Espagne, c'était les primes au tiers. Oui, mais c'est culturel. On peut le faire en Espagne.
Bah, alors, donc, qu'est-ce que tu fais? T'imposes ta culture au monde entier?
Mais non, je dis simplement, à la question, est-ce qu'il faut imposer les 10 mètres de pénalité à des joueurs qui contestent quel est l'argument de Guillaume?
Parce que c'est dans leur culture à eux.
Je suis d'accord avec toi,
c'est
pas une bonne idée. En revanche, il faut trouver une autre solution. Il y a des outils à disposition.
La corruption n'est pas culturelle, je suis désolé. Ça n'existe pas.
Bah, s'il insulte les arbitres, c'est culturel. Pourquoi la corruption ne le serait pas? C'est quoi la différence?
Et parce que à quel moment t'as vu que c'était pas hors la loi la corruption? Dans quel pays?
Mais dans quel pays il n'y a pas de corruption?
N'importe quoi.
Bah non, c'est
non,
toi,
je te dis que
c'est toi qui
discuter avec un arbitre,
il y a des cultures qui
discuter avec un arbitre, c'est pas écrit absurde. Dans un texte de loi. C'est pas écrit dans un texte de loi.
Discuter la pédagogie, bien sûr que si. Il doit expliquer le règlement, tous les protocoles de la FIFA. Il doit être pédagogue. Il doit expliquer ses décisions aux joueurs.
Il a qu'à lui mettre un carton jaune et puis c'est tout.
Voilà, mais là je suis d'accord avec toi. Effectivement, là ouais, il y a des outils pour ça. Mais mettre ça sur le dos de la culture ou dire il faut reculer 10 mètres, je trouve ça, c'est pour moi deux solutions qui ne sont pas très convaincantes.
Je remercie Guillaume d'avoir été là au 32-16.
Et puis ce serait la mentalité de quel pays qui s'imposerait?
Bah, c'est bien ce que
c'est
je te dis.
C'est pas les anglo-saxons, c'est qui imposerait sa façon de faire.
C'est pour ça que le relatif, c'est pas convaincant. C'est pour ça qu'il faut mieux uniformiser autant que possible.
Je ne veux pas, ça n'existe pas. Je déteste
des spécificités peut-être, mais
écoute, je ne veux pas en entendre parler. On n'a pas uniformisé les choses. On n'a pas uniformisé. Moi, ce qui m'a toujours plu historiquement dans une Coupe du Monde, c'est de voir des comportements sur le terrain par rapport au ballon qui sont différents. C'est de voir pendant des années que t'avais des pays qui aimaient bien perdre du temps. Comment dire?
Et ça t'énerve pas quand on dit que les Italiens ils trichent? Toi-même, tu disais, oui, quand on traite les Italiens, les joueurs italiens tricheurs, ça m'a choqué.
Mais bien sûr.
C'est la même chose. On peut dire c'est culturel. C'est culturel.
Qu'est-ce que ça peut faire?
J'étais
choqué, mais je cassais pas les couilles à obliger les gens à pas.
Pas tricher quand même. Non, mais là, tricher.
Non, mais attends, mais je comprends pas ce que tu dis, Thibaut. Mais je comprends pas ce que tu dis.
Je te dis que le relativisme, qui consiste à dire. Des arbitres qui arbitrent. Alors, façon, il y a un style national de l'arbitrage.
Il le dit, c'est tout. S'il est assez con pour penser ça, évidemment, pendant un moment, la culture faisait que les Italiens étaient très forts pour t'endormir un match et sur la fin gagner du temps. Mais il y avait plein de pays qui le faisaient. Les Anglais le faisaient. Je me souviens des matchs de Coupe d'Europe des Anglais quand on pouvait encore passer le ballon au gardien, et notamment dans Liverpool-Saint-Etienne où on donnait le ballon au gardien et tout. Sauf que les Anglais, qui ont toujours été des immenses donneurs de leçons, disaient toujours que c'était les sudistes qui trichaient, qui truandaient ou qui avaient un sale caractère. Bon, les Espagnols, pendant des années, ont été des mecs qui savataient, puis ils ont fait une révolution culturelle. Ils ont changé leur façon de jouer au foot. Bah voilà.
Les gars, il y a 210 pays FIFA au classement FIFA. On va pas faire particularité de chaque pays. Il est 23h01, c'est l'after en direct sur RMC avec Thibaut Leplat, avec Daniel Riolo. Et dans
toi, tu veux éliminer la psychologie du football. Tu veux éliminer tous les ressorts du football.
Les agents.
Tu veux purifier.
Et on vous attend.
T'as un agent purificateur.
A tout de suite sur RMC.
RMC. Ça va mettre la charrue avant les pluies.
Très très compliqué. Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
On venait à Rennes avec l'ambition de garder le point qui nous était accordé au coup d'envoi. Ça a été fait.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut
Thibaut Giangrande.
Il est 23h05. Daniel Riolo et Thibaut Leplat sont là. On est en direct sur RMC, direct vidéo sur YouTube, la chaîne de l'After, où Thibaut, t'as été surnommé Fébraise, agent purificateur.
Ouais, ouais, hein. Ça me change du philosophe du Wish.
Chez Pure Essentiel, c'est le numéro 41. Le 14.
Ah, mais t'es vachement calé.
Dans les grandes
ouais,
maisons.
Parce que Pure Essentiel, il était partenaire des RMC au Sport Game.
Bien sûr.
On en avait dans les sacs.
Oui. Mais t'as réussi à retenir les numéros.
Ça purifiait, ça sentait bon.
D'accord. Tu utilises les Rollon aussi.
Non, Rollon, je crois que c'est un peu mytho. Enfin, je suis pas sûr. C'est Tony Parker qui fait la promo de ce truc.
Toujours avec Antoine Dupont, il y a eu un moment. Ça marche pas, il a dit.
Mais les produits Pure Essentiel sont extraordinaires. Et le 14, il purifiait. C'est Thibaut. C'est Thibaut en petit vaporisateur.
Mbappé au programme, les gars, dans quelques minutes. On sera avec Jean-Baptiste Guégan, auteur, qui sort un livre Révolution Mbappé qui vient juste de sortir. Et justement, Mbappé révolutionne-t-il le football? On va se poser la question avec lui et avec vous au 32-16. En fin d'émission, le meilleur de l'actu du jour, avec notamment les dernières infos RMC sur le Ramadan et l'équipe de France première cette saison. Voilà, fallait que ça tombe, c'est aujourd'hui.
Chaque année, polémique.
D'ailleurs, c'est un peu tard. Hein, ça fait 9 jours que le Ramadan a commencé. C'est de plus en plus tard. On vous donne les infos tout à l'heure.
Et bientôt, ça tombera après le Ramadan.
Oui, peut-être. Mais d'abord, les gars, c'est un peu l'autre événement de cette trêve internationale.
En parlant de Ramadan, j'ai une anecdote rigolote.
Sur le Ramadan?
Oui. Aujourd'hui, je suis allé me faire couper les cheveux. Et mon barbeur...
J'avais pas vu par rapport à hier? Il n'a pas coupé beaucoup.
Je connaissais pas ce concept.
Il a fait le petit dégradé, là.
On a bien rigolé. Ouais. Il était là, il y avait pas mal de gens, de petits salons, on rigolait et tout. Et un disait, bon, qu'il faisait le ramadan et tout. Et l'autre, il dit, ouais, moi aussi, je fais, mais moi, je fais le ramadan américain. Je regarde, je fais, excuse-moi, c'est quoi? Il me fait, c'est le ramadan normal, sauf que tu manges à midi.
D'accord.
Bah, okay. Ça m'a fait marrer.
Okay. Le régime, quoi, en fait. Oh.
Bah, justement, je pense qu'il était bien pourtant. Bah, d'accord. Très bien. Parfait. Combien la petite coupe
15 balles.
15 euros. Ah. Tu y retourneras?
Bah oui, très sympa, le gars et tout, c'est bien marré.
Faudra qu'on fasse, je sais pas, dans une libre antenne, vous avez fait vraiment barbeur versus coiffeur?
Ah, on l'a pas fait, mais c'est une excellente idée.
Moi, j'ai du mal à comprendre vraiment la différence.
Enfin, toi, tu vas chez Franck Provost?
Moi, je suis Franck Provost, Jean-Louis David,
évidemment.
Je demande le rafraîchissement.
Moi, j'ai complètement arrêté.
Le rafraîchissement.
J'ai arrêté.
Et toi, t'es plus, tu vas toutes les semaines, tu vas chez Barber.
J'y vais toutes les semaines, mais j'ai arrêté ça, ce truc et tout. Maintenant, je vais comme ça. En plus, l'ambiance est
décontractée. Mais je pense que Barber, c'est vraiment.
À chaque fois, on discute et tout.
C'est vraiment une coupe attitrée. C'est
la coupe Barber. De jeune, tu fais pas la coupe.
Ah si, t'as un peu le dégradé. J'ai vu en arrivant.
Je veux pas que je fasse un tapeur aussi, là.
Non, pas dégradé. Le truc de Benzema, là. Comme
en plus, il a quasiment rien coupé. J'avais même pas vu que t'étais allé chez le coiffeur.
Ah bah,
t'es sûr qu'il a coupé? T'es sûr qu'il a coupé?
Évidemment.
Et ils font ça à la tondeuse. Ils font pas ça au ciseau.
Si, il a utilisé les deux.
Les deux.
Il est bon. Mais tu crois que c'est
les deux?
Tu crois que c'est un boucher ou quoi, le mec?
Je comprends pas la différence.
Alors c'est barbeur. Il sait.
Tu fais le. Il fait.
Mais non, mais c'est juste la façon dont ils ont monté ces salons. Ça s'appelle comme ça parce que c'est.
Mais non, les prix c'est pas les mêmes.
Mais en fait, ils sont pas du tout anglo-saxons. Dans les barbeurs, c'est pas des Anglais, les mecs. Les Américains, t'inquiète.
Pour eux, c'est 35 euros la coupe dans un barbeur.
À 15 balles, je suis désolé. Quand je me suis rendu compte qu'avec deux fois moins, ils faisaient tout aussi bien, j'ai arrêté. Voilà, c'est tout. Ouais.
Mais en même temps, je pense que si Thibaut va dans ton barbeur Daniel, ils savent pas quoi faire de ses cheveux, je pense. Tu vois?
Ouais, si je sors avec un dégradé, avec le truc de Benzema, les gens vont.
T'inquiète pas, viens chez le mien, viens chez mon pote, tu vas voir, il va faire un truc génial.
Chez l'américain, là?
Moi, j'ai le problème de sourcils.
Bah, ramadan américain. Tiens, franchement, on s'est éclaté, il m'a fait trop marrer, le mec.
23h08, l'After. En attendant de parler de Mbappé, oui, justement, j'allais vendre la revue, les gars, de l'After, qui est sortie il y a quelques jours, avec en une Georges Mendes et les agents. Avec ce métier souvent décrié, dans lequel la revue de l'After a enquêté, et peut-être qui a permis de faire tomber quelques idées reçues. C'est la vie tranchée de Thibault Leplat.
Et le mec s'est mis à ouvrir un garage de moto. Il a fait une philosophie de la moto. Il explique le plaisir du mec qui vient réparer sa moto. Et le moment où il lance l'accélérateur, il l'entend, il fait yeah, comme ça, il dit ça.
Thibaut, vas-y, à vie tranchée. On se serait trompé sur les agents.
Écoute, et je vais te dire sincèrement, quand on a commencé, on s'est posé la question de ce sujet-là avec Daniel et Gilbert. Moi, j'ai toujours une vision des agents. Alors, on connaît un peu Bruno Satin, Yvan Lemay, qui viennent ici souvent, qui sont sympas. Mais moi, le milieu des agents, bon, je suis prof de philo de formation, t'imagines que je suis un peu loin quand même du milieu des agents, était pas un milieu qui m'a jamais semblé très sympathique. Parce que milieu d'intermédiaire, un peu obscur, les personnages comme Mino Raiola me semblaient toujours un peu énigmatiques. J'ai du mal à les admirer, à part des histoires d'aventure. J'avais du mal vraiment à aimer ce métier-là. Parce que c'est toujours un peu
Tu collais plein de clichés,
voilà.
Il y a de l'argent louche.
C'est les mecs qui s'interposent entre toi et les joueurs, c'est les mecs qui s'interposent sans arrêt, en fait, les agents. Mm-hmm. Effectivement, quand tu es de l'extérieur, tu te dis, et à juste titre souvent, que c'est, oui, c'est en gros, ça peut être un métier d'escroc, quoi. C'est un peu ce que tu te dis.
Ça peut l'être.
Et en travaillant sur ce numéro-là, j'ai petit à petit un peu revu mon jugement. En me rendant compte que, alors évidemment, il y a, comme dans tous les métiers, des bons, du mauvais, etc. Il y a un chiffre, peut-être, qu'il faut donner. En France, il y a un peu plus de 1000 joueurs professionnels, 1200 joueurs professionnels, et il y a 600 agents licenciés. Donc, quand t'as compris ça, t'as compris tout le problème. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'agents pour très très peu de joueurs. Donc, une concurrence énorme. Et donc, une concurrence énorme égale la loi de la jungle dans beaucoup de cas. Donc, il y a de tout. Il y a de tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce dossier-là, on a voulu montrer ce que c'était que le travail, si je puis dire, pas d'un bon agent, mais de traiter le problème de l'honnêteté. Je voulais qu'on le traite comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire quoi être un agent honnête? Ça veut dire quoi faire son travail correctement? Et que, en fait, le métier d'agent, et dont on parle très peu, parce qu'on parle toujours d'argent, quand on parle d'agent, mais on parle pas du métier. Très peu. Et le métier, qu'est-ce que c'est? C'est un beau métier.
Ce qu'ils font réellement.
C'est-à-dire le métier de conseil.
Parce qu'en fait, on ne s'attarde que sur l'idée qu'il gère le transfert, voilà. Et il va dans le bureau du président pour négocier le salaire et dire.
Ce que nous disent les agents-là, à commencer par Raphaëlla Pimenta, on était très content de pouvoir compter sur elle sur cette revue-là. Peut-être c'est l'agent qui a succédé.
C'est beau, quand même, d'avoir interview de Raphaëlla Pimenta.
C'est énorme.
Qui succédait à
Mino Raiola.
À Mino Raiola.
Est-ce qu'elle a repris le contrat Verratti, d'ailleurs, tu m'as demandé?
Non, je vais pas demander. Je crois qu'elle a pas eu près tous les contrats parce qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont partis.
Normal, il y a plus rien à gérer de toute façon.
Non, mais elle a toujours Haaland, elle a toujours Mkhitaryan, elle a toujours pas mal de gens.
Lâche pas.
Donc
Pitbull.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que 98% de son travail, c'est du travail gratuit. Ça consiste à accompagner les joueurs, à les aider, et ils facturent de temps en temps. Mais 98% du travail, c'est accompagner les joueurs dans leur vie parfois, dans leur vie familiale de temps en temps, mais surtout dans leur vie professionnelle et construire avec eux. Et ça, Yvan Lemay en parle aussi très bien. Construire un projet de carrière au sens noble du terme, c'est-à-dire une progression. C'est-à-dire prendre le temps, pas mettre le joueur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'exemples, en fait, d'erreurs de casting et des bons exemples de choix de carrière. La carrière d'un joueur, c'est extrêmement fragile, c'est en moyenne 4 ou 5 ans, le joueur professionnel, et qu'il faut faire les bons choix. Et les bons choix, c'est pas les choix qui payent le plus. Et le problème de ce milieu du foot-là, c'est, et de plus en plus maintenant, c'est qu'on n'a pas le temps. Et l'agent, soit il n'a pas le temps, et auquel cas il va au plus offrant, soit il prend le temps, et auquel cas, à mon sens, c'est peut-être un bon agent, parce qu'il prend le risque que le joueur lui dise non. C'est d'ailleurs, on pose souvent la question là, il dit, est-ce qu'il faut dire la vérité au joueur? Ils répondent tous là-dessus. Et est-ce que tu peux dire non à un club, comme un grand club vient, est-ce qu'il faut dire non? Et je trouve que ça en fait un métier intéressant. Évidemment, sur le rapport de tous les agents, à mon sens, les très bons agents, on a essayé de les regrouper là, mais il y en a d'autres, hein. Il y en a certains qui sont là, d'autres qui n'ont pas voulu participer pour d'autres raisons, parce que c'est difficile, c'est un milieu très difficile d'avoir des agents qui parlent à visage découvert, c'est très difficile. On a réussi à en avoir parmi les plus importants, donc on est très contents. Mais ça montre une chose, c'est que ce métier-là peut être bien fait, mais que c'est un métier extrêmement difficile. Et pourquoi bouc émissaire du foot business? Parce qu'au final, ça leur retombe toujours un peu sur la gueule, que ce soit du côté des dirigeants, qui en veulent toujours aux agents, de prendre trop des commissions trop importantes sur les négociations, de la part de la FIFA, qui a essayé de réguler ce métier-là.
Le principal problème vient de la régulation. De qui est agent, de qui se dit être agent.
Et en fait, ils sont la partie émergée du foot business. Et c'est pour ça qu'on leur retombe dessus. Alors que c'est un métier qui est vieux comme le monde, on le voit, vous verrez dans la revue, c'est un métier très ancien.
Maintenant, il se trouve que aujourd'hui, j'ai dû m'intéresser parce que la semaine prochaine, il va y avoir le verdict, le jugement sera rendu dans l'affaire Saïd Chaban autour de ce qui s'est passé à Angers et justement des agents qui ont énormément croqué et qui ont quasiment fait couler le club. Et c'est qu'effectivement, il y a quand même un aspect un peu Far West où c'est ouvert pour tout le monde. Et à côté de ceux qu'on a pu rencontrer dans la revue, qui bossent depuis des années, et C'est difficile de dire la majorité travaille correctement ou une minorité sont des truands. Il n'y a, a pas d'évaluation.
Donc c'est possible d'être aussi, de travailler correctement.
C'est très difficile de faire une évaluation sur, sur la proportion de, d'honnêteté ou de malhonnêteté. Toujours est-il qu'en France, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de faire le ménage là-dedans dans ce qu'on appelle les agents sportifs au sens large. On en a beaucoup traité dans l'after. Des, en gros, des membres de la famille du joueur qui avaient envie de jouer les agents, mais qui, comme ils n'avaient pas le diplôme, ça coquinait avec un avocat qui gérait tout l'administratif. Et c'est une tendance
les assez lourde. Les prête-noms, le problème des prête-noms, voilà. Parce que comme t'as des types qui étaient à 600 agents, et t'en as un quoi, 150 qui exercent. Tous les autres, c'est souvent des prête-noms qui, eux, financent en facture l'idée de signer un contrat au nom d'un autre, ce qui permet à des gens qui n'ont rien à voir avec le business de s'y engouffrer.
Et de croquer là-dessus. Et suite à ce jugement la semaine prochaine, je pense qu'on en parlera à ce moment-là, parce qu'on va voir de quelle façon seront condamnés et surtout qui. Parce qu'énormément d'agents ou de faux agents sportifs rôdaient autour du club et c'était un petit peu.
Il va y avoir des noms qui vont tomber la semaine prochaine.
Des types, probablement, certains dont les noms ne seront pas connus. Ouais. Parce que c'est des gens qui se disent agents et qui ont tourné autour du club. Et qu'il y ait aujourd'hui une cellule dédiée à ça dans la police en France,
ouais,
et des commissaires qui travaillent là-dessus pour démêler un petit peu tout ce monde qui est très, très, très confus, je pense que c'est une bonne chose. Alors, certains diront, ouais, vous êtes dans l'illusion que ça va pouvoir régler des choses, on continuera toujours à bricoler, machin. C'est possible, c'est possible. Ça empêchera pas d'entretenir les légendes sur les rapports entre certains clubs et certains agents quand on parle des catalogues. C'est de l'ironie, mais à demi-mot, quoi, finalement, parce que c'est une réalité. Quand t'as à la tête de certains clubs des gens qui sont pas réellement compétents ou qui connaissent pas le milieu, ils s'en remettent à un ou deux agents et ils disent, bon, vas-y, aide-moi à faire l'équipe.
Parce que souvent,
et puis en fait, après l'agent, c'est comme s'il a une emprise un peu sur le club, en lui disant, je vais te proposer ça, je vais te favoriser ce deal, je vais te sortir tel joueur, essaye de me trouver une solution pour un tel. Et en fait, c'est des services rendus.
Mais parce
et
qu'il on y a, se rend y a, des services. Il y a un truc dans le.
Et ça donne l'impression de cette tambouille.
Que j'ai découvert là, dans les enquêtes qu'on a faites, c'est que, en réalité, Le bon agent, il connaît très bien le foot. Et souvent, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études.
Ah, bah oui.
Voilà. Oui, mais enfin, c'est pas une évidence.
Bruno,
mais
par rapport aux
dirigeants. Par rapport aux dirigeants. Ça explique aussi l'emprise qu'ils ont sur les dirigeants.
Bien sûr.
C'est des gens qui connaissent très bien le foot, qui sont dans leur métier, le football, qui sont 300 jours par an dehors, qui vont regarder des matchs, qui vont voir, qui connaissent tous les directeurs sportifs, qui savent les besoins dans lesquels ils sont. C'est ça le travail d'agent. C'est un travail de l'ombre. C'est ce travail gratuit dont on parlait tout à l'heure. C'est ce travail d'aller voir, discuter, savoir ce dont ils ont besoin. Et donc là, ce travail-là est pas rémunéré. Ce travail-là est invisible. Mais c'est ça le travail d'agent en réalité. Il est là et le cœur du métier, c'est ça. Le cœur du métier, c'est le football. Et tu te rends compte que tu as affaire à des gens, dans le cas de Raphaël Apimental, par 8 langues. 8 langues.
Elle te l'a fait en français, évidemment.
Elle l'a fait en français mmh, parfait. Mais elle parle hollandais, brésilien, espagnol, anglais, je ne sais plus quelle autre langue encore. Bruno Satin, il parle 5 langues. Tous les agents importants sont des gens qui ont...
Si on galère en anglais LV2, par exemple, c'est un métier...
Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as affaire à des gens brillants dans certains cas.
Ouais.
Tu as affaire à des gens qui sont vraiment compétents. Et qu'un des problèmes aussi, c'est que certains dirigeants qui n'ont pas forcément les mêmes compétences, soit se reposent sur des gens qui sont compétents, mais qui n'ont pas forcément une moralité nickel, ou alors des gens qui font très bien semblant, qui ne sont pas forcément compétents, mais qui vendent très bien leur business. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que là, j'ai essayé d'aller au-delà de mes propres préjugés là-dessus. Et grâce, avec Daniel et Gilbert, on a travaillé sur les différents thèmes et notamment différents angles, notamment l'angle historique aussi. Et on se rend compte que dès les années 20, dès la naissance du professionnalisme, même avant, les agents existaient.
Et angle intéressant aussi, les relations agents-journalistes.
Oui. Mm-hmm. Papier de Timothée mm-hmm. Mémon. Ouais.
Et anecdote de Daniel également.
Quelle anecdote?
Dans ton édito, tu racontes.
Je pensais que là, tu me disais, raconte.
Bien sûr,
l'édito, je raconte pas mal de trucs.
Dans la revue de l'After, en kiosque, alors je le ferai moi-même que Gilbert, les abonnements, tout ça, allez-y, les gars.
Afterfoot.media, voilà, pour moins de 5 euros par mois, vous abonnez, 6 numéros par an. Et on essaie d'avoir le meilleur.
C'était 4, mais on a augmenté la dose.
Et on essaie d'avoir le meilleur de l'opinion foot pour que chacun se fasse un peu ce. Stimuler la réflexion. Et dedans, il y a un dossier aussi Euro 84, peut-être on en parlera, et un dossier Unpopular Opinion spécial Super League, pour ou contre.
Il est 23h19, c'est l'After à la radio et sur YouTube, en direct jusqu'à minuit. Thibaut Leplat, Daniel Riolo, dans une dizaine de minutes, Kylian Mbappé révolutionne-t-il le football? Il est à la une d'un nouveau livre qui vient de sortir. Son auteur Jean-Baptiste Guégan sera avec nous en direct. Et juste avant l'actu du jour, les dernières infos des Bleus et l'équipe de France et le Ramadan également. C'est tout de suite sur RMC.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Merci d'avoir choisi RMC, vous écoutez l'after. Et ça, c'est l'alerte. L'alerte pour tenter de gagner vos places pour Paris Saint-Germain, Barcelone, au Parc des Princes et vivre l'expérience RMC. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour vous inscrire en envoyant PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. À suivre dans une dizaine de minutes, Kylian Mbappé révolutionne-t-il le football? Avant les infos, équipe de France à vous donner. On est à 3 jours de France-Allemagne, premier des deux matchs amicaux. Mike Maignan, toujours pas forfait, mais toujours pas à l'entraînement collectif. Vous vous rappelez qu'il a été touché à un genou en Ligue Europa. Le week-end dernier, il a ressenti une douleur à nouveau. Et là, en fait, c'est une douleur aux ischios. Une décision sera prise demain pour sa participation ou non face à l'Allemagne. Et sachez qu'en face, quoi qu'il arrive, il n'aura pas Manuel Neuer, qui lui est officiellement forfait. Il souffre d'une déchirure à l'adducteur gauche. Il ratera donc les deux matchs de l'Allemagne contre la France et les Pays-Bas. Donc ce sera soit Ter Stegen, Bernd Leno ou Baumann, le gardien d'Offenheim. Voilà pour les infos équipe de France. Vous dire également, aujourd'hui, dans l'actu...
Demain, on parlera un peu des Bleus quand même.
Oui, absolument, mais on peut en dire un mot ce soir si tu veux, mais on est encore à 3 jours du match.
Ça fait quand même super longtemps qu'on les a pas vus. Voir un peu les bilans des uns des autres, état de forme. Quand je vois la compo qui pourrait être alignée, je trouve qu'il y a pas mal de points d'interrogation sur la forme des uns des autres, qui est bon en ce moment, qui est moins bien dans sa carrière en club. Je trouve que ça se regarde à quelques mois de l'Euro.
Bah demain, on sera J-2 et grosse page d'équipe de France avec plaisir. Concernant l'équipe de France et toutes les équipes de France, Mamadou Diawara, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui avait été appelé en équipe de France U19, n'est pas venu. Il a été mis au courant de nouvelles consignes de la Fédération Française de Football concernant le Ramadan, le jeune en sélection. Et il a préféré ne pas venir et il a donc été retiré de la liste. Cette année, c'est une nouveauté. La Fédé a mis en place un cadre de neutralité, comme il l'appelle, pour toutes les sélections de l'équipe de France. Donc en pratique, les staffs des équipes de France ont reçu la consigne de ne pas modifier les conditions des stages des équipes de France pour cadrer de cette manière la pratique du jeûne du Ramadan. Donc dans toutes les sélections, les joueurs doivent s'adapter au rythme habituel de l'équipe et non l'inverse. Autrement dit, principe de neutralité, absolument. Aucune modification du programme pour favoriser le jeûne ou autre pratique. Et c'est ce qu'a rappelé Philippe Biello dans plusieurs interviews, dont celle au Figaro ce soir, où il dit, je cite, « J'ai réaffirmé que c'est dans ce cadre de neutralité que nos sélections fonctionnent concrètement. Ça veut dire que nous ne modifions pas les conditions d'exercice de nos sélections pour des critères religieux. » On a essayé d'appeler ce soir, notamment par Nicolas Pelletier, la Fédé française et l'entourage de Mamadou Diawara, qui n'ont pas souhaité nous répondre pour l'instant. Daniel.
Quand club, on fasse. Si j'étais président de club ou dirigeant de club, directeur sportif, et que j'avais des joueurs qui pratiquent le Ramadan, j'essaierais de faire en sorte que tout le monde soit heureux et qu'il n'y ait pas de sujet autour de ça. Jour de match. Je demande au médecin, j'en parle avec le joueur, je vois ce qu'on peut faire. Il y a des joueurs qui le supportent très bien, d'autres qui le supportent moins bien. Donc je ferai une étude physiologique du gars. Enfin, j'essaierai de savoir, en tout cas, s'il peut le faire, pas le faire. Certes, si c'est un joueur important et qu'il va me rater un match ou que ses performances soient diminuées à cause d'un facteur religieux, honnêtement, ça va me saouler. Mais je fais tout pour qu'on trouve une solution.
Concernant l'OL, Pierre Sage, quand il était au Red Star, déjà, il avait vu le sujet. Et il considère que accompagner le joueur pendant le Ramadan est un levier de performance pour lui.
Je pense
aussi. Si le joueur est heureux.
Mais je pense, il faut qu'il soit heureux. Je pense que
il est là, le truc, c'est qu'il y a un décalage entre club et sélection.
Voilà. Je le fais, j'essaye vraiment, je discute avec les gars.
Après. Au quotidien, parce que ton quotidien.
Après, comme on n'est pas sur ce calendrier-là, évidemment, je veux pas dans mon équipe, s'il y en a 10, enfin, faut pas que ça devienne hyper compliqué à gérer, rapport à mes entraînements, rapport
à l'époque au moins
rapport au match qu'il y a à faire et tout. Mais enfin, peu importe, c'est une donnée que je prends en compte. Je suis dirigeant, j'ai pas de problème, je veux que tout le monde soit heureux. La sélection, je pense que c'est un autre souci. Je pense que c'est autre chose. Je pense que s'il y a un cadre légal, s'il y a un cadre pour toutes les sélections nationales, les joueurs doivent s'y tenir. Je pense qu'il y a une vraie différence. Pardon, moi, tu vois, que le facteur religieux prenne de plus en plus de place dans la société, déjà, à la base, ça me saoule. Pardon, moi, je vais te dire clairement que OM-PSG se joue le dimanche de Pâques, à titre personnel, moi, ça me saoule, parce que c'est un jour de fête, un jour de important dans ma religion et tout. Mais ça, je vais pas faire un scandale, je vais pas ne pas regarder le match.
À midi, le poulet, il est à midi, l'agneau.
C'est un jour important et tout.
Après, tu bouffes des chocolats jusqu'au soir.
Le week-end, parce qu'il y a lundi de Pâques. Pour ceux qui fêtent Pâques, c'est, non mais, j'en ai rien à foutre au final.
Moi, je le fais, Pâques.
Non mais, au final, j'en ai rien à cirer. Je vais bosser, j'ai pas de soucis, je fais, voilà. Tu vois? Donc, si on peut gommer ce genre de choses-là, si on peut, si un joueur décide, et c'est ce qu'a décidé le joueur, finalement, bah écoute, ma religieuse, c'est plus important que le cadre légal de ma sélection. Libre à toi, mon gars.
Bonne chance à toi.
Bonne continuation. Je te souhaite le meilleur pour ta vie.
Ce que j'apprécie.
Mais,
ce que je trouve pas.
Tu peux partir, c'est ton choix. J'ai aucun problème avec ça.
Je suis totalement d'accord avec toi sur ce sujet, Daniel. Et là, j'ajouterais que, je vais pas répéter tout ce que tu viens de dire, simplement un détail dans cette affaire qui me semble intéressant, peut-être sur l'évolution du sujet. Comment on commence à traiter le sujet un peu plus de manière coordonnée, c'est un les directives très claires de la Fédé qui n'a pas employé le terme de laïcité, qui a employé le terme de neutralité, qui a son importance parce que c'est dans la charte FIFA et dans la charte olympique, la laïcité est un concept français et en plus un concept qui en ce moment est quasiment inflammable. Tu prononces le nom de la laïcité, ça part en vrille.
Mais parce qu'aujourd'hui, laïcité, il y a plein de gens qui croient que laïcité c'est quelque chose qui est anti-islam.
C'est
absolument absurde de croire
clair
ça.
Dans ce cas-là,
il faut connaître un peu l'histoire.
Et deuxième sujet, Diawara a eu l'intelligence de ne pas en faire un fait public, c'est-à-dire on l'a su après, il n'est pas allé sur place, il n'a pas fait un sitting, il n'a pas convoqué.
Il n'a pas chialé, il ne s'est pas plaint, c'est pour ça que je lui dis.
Il n'y a aucun problème. Et moi là-dessus, je ne peux que saluer ça. C'est évidemment pas forcément l'idéal pour lui, j'en sais rien, ça le regarde. Mais au moins, on sait, on connaît le règlement, ça a été fait de manière sereine, et lui, il décide de ne pas y aller. Tant mieux pour lui, peu importe. Mais au moins, c'est clair. On n'est pas dans une situation d'ambiguïté où on ne sait pas ce qui se passe, on hésite, etc. Là, au moins, les directives sont claires. Je n'ai pas l'impression. Que, alors, je peux comprendre que certains peuvent être.
Excusez-moi, mais les mecs qui sur le chat disent débattre d'une religion, mais il n'y a aucun musulman sur le plateau. Enfin, c'est quoi le problème en fait? Je ne comprends pas en vrai.
C'est comme on parle
en fait, on parle pas, vous n'avez pas compris, là, on ne parle pas d'islam, on parle de religion.
On parle de religion, hein.
C'est donc catho, juif, musulman, c'est juste à quel moment le facteur religieux s'introduit dans l'espace public d'une équipe nationale. Et en plus, on a bien distingué ce qu'on ferait en club, entreprise privée. De ce qu'on ferait en sélection nationale. Qu'est-ce que, je suis désolé, un musulman, et peut-être certains peuvent téléphoner.
On va prendre quelqu'un d'autre. Mais en quoi ça va être un plus? On va s'intéresser à l'islam sans être musulman.
Exactement. En quoi ça va être un plus dans le débat, en vrai?
Je comprends pas. Tariq est là au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut Tariq.
Salut tout le monde.
Sois le bienvenu dans l'after sur RMC.
Salut.
Merci.
Bon, tu nous appelles. Quelle est ta réaction?
Ma réaction, elle est, année après année, c'est toujours les mêmes débats. C'est ce qui m'embête un petit peu. Et surtout, ce qui m'embête dans les débats, c'est que là, on parle du Ramadan. Le souci, c'est que ça soit pour la rupture du jeûne, on a parlé des pauses, ce qui se fait un peu partout en Europe. En fait, en France, le problème, c'est que tu n'as aucun joueur qui s'est exprimé ou qui a revendiqué quelque chose, que ce soit pour la rupture du jeûne, pour la pratique du Ramadan. Et malheureusement, ça crée des polémiques là où il ne doit pas y en avoir.
Il n'y en a pas. Il n'y a aucune polémique.
On en fait des débats et malheureusement, indirectement, on montre du doigt.
Le joueur n'a pas voulu en parler.
Non, pas du tout. Au contraire, on a félicité le joueur pour sa discrétion. Il n'a pas fait de débat. Il n'y a pas de polémique. On n'a rien du tout.
Il y a quelques excités des réseaux qui se sont jetés dessus pour essayer de mettre de l'huile sur le feu. En l'occurrence, il n'y a même pas de feu là. Donc c'est, il y a une décision qui a été prise, une ligne qui a été choisie par la Fédé dans le cadre de la représentation nationale. C'est pas exactement la même chose qu'un club. C'est pas, on peut pas dire que c'est la même chose et que la loi s'applique pour tout le monde. C'est le minimum qu'on puisse demander un règlement de Fédé. Moi, ce que je salue simplement, c'est que il y ait une doctrine claire qui n'est pas agressive. Il n'y a pas eu de.
Elle n'est pas agressive. T'interdis la pratique, une pratique religieuse. Non, bien sûr qu'elle est agressive.
Elle n'est pas agressive. C'est un principe de neutralité qui est imposé à toutes les religions dans le cadre de l'équipe de France. Voilà. Donc après, tu es libre de ne pas y aller.
Personne n'est obligé d'y aller. La Fédération française a parlé du Ramadan, alors qu'on est en pleine période de carême, par exemple. On vise pas toutes les religions.
Pardon, mais une seule religion. Parce que
le carême, vous savez très bien, en même temps, les gars. Mais non, mais de toute façon, je pense que c'est plus suivi que ceux qui font le carême. Je pense, ça n'est pas exactement la même chose. Et deux, je crois
c'est
que
pas les mêmes contraintes.
Et, carême, c'est pas les mêmes contraintes. Et à aucun moment il est autorisé si quelqu'un, j'en sais rien. En plus, toi tu les connais réellement. Autant pour le Ramadan, on sait clairement ce qui se passe. Autant pour le carême, même moi qui suis catho, je suis quasiment incapable de dire exactement à quoi ça correspond. Si ce n'est qu'il faut être un peu moins gourmand.
C'est pas les mêmes contraintes.
Il faut un peu moins bouffer. Un peu moins être gourmand et ne pas céder au luxe de au péché de gourmandise. Avec ça, va déterminer quelque chose de clair. Donc
là,
donc,
le jeûne intermittent, qui est le cadre du Ramadan, les contraintes sont beaucoup plus claires. On sait quand même beaucoup mieux en quoi ça consiste que le carême. Le carême, c'est un peu plus abstrait, on a du mal. Et là, dans la mesure où on a quelque chose de très clair qui est le Ramadan, on sait le jeûne intermittent à quelles conditions, on sait à quelle heure, c'est très précis. Là, effectivement, comme tu as quelque chose de précis, tu as un règlement qui est aussi précis sur la question de la neutralité. Parce que dans le cas de l'islam, dans le cas d'autres religions, mais dans le cas de l'islam en particulier, il y a un certain nombre de pratiques religieuses qui s'imposent aussi dans l'espace public et que tu réglementes, que tu es obligé de réglementer. Tu vas pas le faire n'importe où, n'importe quel moment. On vit en société. Tout le monde n'est pas musulman non plus. Et les
moi, musulmans qui sont en équipe de France. De dire que ça concerne toutes les religions. Et là, sur le cas présent, ça ne concerne pas toutes les religions.
De facto, ça concerne le Ramadan.
De facto, évidemment.
Mais oui, de fait.
Il répond à votre argumentaire.
Mais non, c'est pas un argumentaire. Je te dis juste, c'est juste un constat de droite.
C'est un constat des faits, c'est tout.
Qui s'applique de facto dans le cas du Ramadan. Là, il n'y a pas d'équivalent, on n'a pas d'équivalent de joueurs qui ont refusé d'aller en équipe de France parce qu'ils ne pouvaient pas faire carême, parce que les contraintes ne sont pas les mêmes, parce qu'on ne peut pas comparer l'un à l'autre, chaque religion est différente. C'est bien pour ça qu'il y a le principe de neutralité, pour ne pas avoir à rentrer dans des problèmes théologiques, de savoir combien de temps, si tu peux le faire après, donner la parole à un imam. Je ne suis pas certain qu'un imam doit donner son avis.
Tous n'ont pas forcément le même avis sur la question,
non,
en plus.
Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'islam aussi. Enfin, donc il faut comprendre qu'il y a une décision qui est prise par une fédération qui s'applique à combien de milliers de personnes dans un cadre très précis qui sont des stages, qui ne sont pas sur la longue durée. Sur la longue durée, je suis parfaitement d'accord avec Daniel, tu as les moyens de le suivre, de rendre possible le jeûne intermittent. Il y a des études qui ont été faites, des entraîneurs le pratiquent. Je suis parfaitement d'accord, j'ai été le premier, moi, dans l'affaire Galtier, j'ai été un des premiers à dire qu'effectivement, il fallait se renseigner et qu'il était parfaitement capable, on était parfaitement capable de le faire ça. Dans le cas de l'équipe de France, c'est un peu différent parce que c'est la sélection et parce que ce sont des stages courts et t'as pas les joueurs tout le temps. Donc, effectivement, ça peut poser des problèmes. On peut discuter.
Ça voudrait dire pour le peu d'entraînement que tu as, il faut totalement modifier les séances pour tout le monde. Donc ça veut dire que un facteur religieux s'impose au plus grand nombre. Pardon, mais tu comprends que ça peut poser un problème ou pas, Tariq ?
Moi, le truc, c'est que je pense qu'on est à peu près de la même génération.
Tu ferais des entraînements différenciés ?
Je pense qu'on est à peu près de la même génération et chaque année après année, on dépasse un stade. Avant, ça posait aucun problème. Est-ce que vous avez déjà entendu un souci lié, que ça soit au football de sélection, lié à la pratique du Ramadan ? Mais chaque saison, année après année, on dépasse un stade.
Mais non,
je trouve que
Est-ce que
vous avez un exemple d'un souci à me donner qui a été lié à la pratique du Ramadan,
qui a dit
au niveau de la santé? Au niveau de la pratique du sport de haut niveau.
Et qui a dit qu'il y avait un souci?
Si tu, c'est vous qui êtes en train de
personne n'a dit qu'il y avait un souci, on dit qu'il y avait un cadre. En fait, on a dit qu'il y avait un cadre qui avait certainement été mis en place pour justement que sur la courte période, comme l'expliquait Thibaut, ça devait être assez compliqué de faire des entraînements différenciés et que Deschamps peut-être s'il avait deux trois joueurs, il fallait qu'il fasse des séances à un certain horaire pour eux machin et que sur 4 jours d'entraînement, c'était un petit peu compliqué sur le peu de temps qu'il les avait à organiser. Est-ce que ça a même pas été dit? On va dire que c'est sous-entendu. Et donc, où est le problème d'envisager ça? On a dit que si tu les as toute l'année en club, c'était beaucoup plus envisageable et plus simple.
Qu'il faut les accompagner, évidemment.
Donc je vois pas pourquoi, en fait, tu arrives en te sentant agressé par quoi que ce soit, alors qu'il n'y a aucune agression. Est-ce que t'es d'accord avec l'idée que pour 4 jours d'entraînement dans une sélection, c'est pas simple à gérer pour un sélectionneur? Surtout s'ils ne le font pas tous.
Si tu me dis, et si t'as des sources et t'as des preuves que des joueurs réclament des aménagements d'entraînement, etc., par rapport aux joueurs qui jeûnent, je te dis oui. Mais moi, d'après ce que je sais, tu n'as aucun joueur qui ne réclame rien du tout.
C'est exactement ce que je t'ai dit. Avec les bleus de Deschamps, personne n'a demandé. Et on a parlé
ça
du cas.
Juste avoir une stratégie,
c'est juste qu'on a parlé juste de ce cas, de ce jeune joueur qui voulait un aménagement. On lui a dit non, il est parti. On a dit, bon, il assume, aucun problème.
Je remercie Tariq d'avoir été là au 32-16.
Non, mais attends, deux secondes, qu'on termine les gars. On est d'accord que tout est clair dans ce qu'on a dit.
Oui. Je suis pas d'accord parce que tu fais de ce cas-là la généralité qui
mais
qui,
personne n'a fait une généralité. Qui a fait une généralité? Qui a dit que les mecs avaient demandé? On n'a pas dit que les gens avaient demandé.
Tu as interdit la pratique du jeûne pour tout le monde.
Mais non. Mais pas du tout. On a dit, et le communiqué dit qu'il n'y aurait pas d'aménagement pour ceux qui avaient envie de pratiquer le ramadan. Ils n'ont pas dit on interdit, on dit on ne fait pas d'aménagement. Alors toi tu peux me dire oui mais c'est comme interdire à l'envers. Mais si quelqu'un le demande, mais comme tu l'as dit, personne dans l'équipe de Deschamps par exemple l'a demandé. C'est arrivé dans une sélection de jeunes. Le mec a dit on ne peut pas aménager pour toi et il a dit je m'en vais. T'es d'accord qu'on peut pas aménager pour une personne ou deux personnes sur un stage de 4 jours?
Non, sur ce point-là, oui.
On est d'accord, Jarry. Pourquoi tu t'es arrivé en le prenant mal alors que c'est super simple, en fait?
Allez. Merci Tariq d'avoir été là. Bonne soirée à toi et à très vite sur RMC. Il est 23h37. Daniel Riolo, Thibaut Leplat. C'est l'after.
C'était
en direct jusqu'à minuit. Débat enflammable à chaque fois.
Par rapport à ça, c'est une folie,
Contexte.
C'est fou quand même.
Dans un instant, Kylian Mbappé, en parlant de toujours contexte et de folie. Kylian Mbappé révolutionne-t-il le football? L'auteur d'un livre qui vient de sortir, Révolution Mbappé, Jean-Baptiste Guégan, sera en direct sur RMC, en direct à la radio et en direct sur YouTube. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Il est 23h41, l'after en direct jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Thibaut Leplat. Merci d'être là, d'avoir choisi RMC. Vous écoutez la première radio de France à cette heure-ci tous les soirs. Et merci beaucoup. C'est un plaisir d'être là avec vous. L'équipe de France au programme demain en longueur parce qu'on est à 3 jours. On sera 2 jours demain de ce France-Allemagne. Tiens, petite info qui vient de tomber pour toi, Daniel. La petite alerte. Tony Estanguet annonce la mise en vente là ce soir d'1 million de billets pour les tournois olympiques de foot. Donc si tu veux acheter ça, tu peux te précipiter pour aller voir.
Qu'est-ce que je dois acheter?
Les billets pour le tournoi olympique de foot. Là, il y a 1 million de billets mis en vente là ce soir. Là. Annonce de Tony Estanguet.
1 million.
1 million. Donc tu.
Qu'est-ce que tu racontes? Il y a pas 1 million de billets pour aller voir les matchs de
foot. Pour les tournois olympiques. Si.
De foot.
Y a-t-il un
masculin et féminin?
Sur le total de matchs.
Mais vous êtes fous, quoi.
Mais tous les stades, la taille des stades.
S'il y a 45 000, il y a
100
matchs. Tu n'as pas 1 million de billets, voyons.
Le nombre de matchs de poule.
Il y a combien de matchs en tout? T'as une vingtaine de matchs.
3 matchs par poule. Des stades même de 45 000, ça fait 120 000.
C'est le moment match.
120 000.
C'est le moment calcul, attention.
Alors, attention, je prends la calculatrice pour éviter une déconvenue à Daniel.
Oui, voilà. Vas-y.
Vous êtes prêts?
C'est dans quel stade? C'est au Parc des Princes et?
Il y a 5 stades. Il y a
5 à 45 000 de moyenne. Allez, 50 000 de moyenne. Allez, 50 000 fois. Fois il y a 30 matchs. Il y a 30 matchs dans le tournoi, non?
Il y a t'as 3 matchs de poule fois 4 poules. Mais si.
Il est fou lui.
Mais si.
30 fois 50 000, vous êtes prêts? Vous n'avez pas à faire de tête. 1 500 000.
Bam! Il était où le petit Riolo pendant les cours de maths? Hein? On a fait un bac littéraire pour toi, j'ai l'impression.
La difficulté de cette opération, c'était le 3 x 5.
Oui, 3 x 5, c'est pas facile, faut dire. T'arrives sur l'étape de 3 quand même, c'est compliqué.
Si tu permets.
Salut Jean-Baptiste Guégan. Sois le bienvenu.
Révolution Mbappé.
Révolution Mbappé, c'est le livre qui vient de sortir chez Michel Lafon, que tu co-signes avec Clément Pernia. Ouais. Et justement, on va en parler. Mbappé révolutionne-t-il le football? 32-16, si vous voulez venir en débattre avec nous. Bon, on te connaît dans l'after. Okay. Révolution Mbappé, pourquoi ce titre justement?
Parce qu'il y en a un qui est pas comme les autres, qui va au-delà des stats, qui représente finalement une nouvelle génération. Une nouvelle génération de footballeurs, mais aussi une nouvelle France. Et c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ce livre. C'est qu'au-delà du joueur, c'est un personnage qui compte. C'est un personnage qu'on écoute. On l'a encore vu là, lors du dîner d'État avec avec l'émir du Qatar. On est sur
quelqu'un qui... Et Vincent Labrune.
Ouais, et Vincent Labrune. L'immense Vincent Labrune. Ouais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il change les codes. Il contribue à les écrire. C'est ça qui nous intéressait.
Facile ou pas de d'enquêter tout le monde veut bien te parler de Mbappé quoi.
Ça a été plus compliqué avec certaines personnes on va dire.
Club entourage, ouais. Impossible.
Le club n'était pas contre, non. On a eu énormément de possibilités d'échange avec beaucoup d'acteurs. La famille était pas souhaitait pas forcément communiquer avec nous, mais parce qu'ils avaient leur plan de com aussi. Et en l'occurrence, on a signé un livre où il y a plus d'une cinquantaine de personnes. On a eu beaucoup plus de facilité à avoir, par exemple, des acteurs politiques de premier plan. Certains ont voulu parler aussi en off, pour des raisons évidentes. Mais en tout cas, on est assez contents de nous, ce qu'on a réussi
à voir. C'était quoi le moteur?
Le moteur, bah, tu vois, c'est la question que je me posais. C'est pourquoi ce joueur-là, finalement, est pas comme les autres? Qu'est-ce qui, au-delà des buts qui marquent, voilà, au-delà de ce qu'il représente, pourquoi aujourd'hui, quand on en parle autrement? Pourquoi, par exemple, sur la question de la diversité, son nom jamais ne vient? Pourquoi il est reçu au dîner d'État du Qatar, au même titre, finalement, qu'un Nicolas Sarkozy ou qu'un autre acteur? Pourquoi, quand on parle de lui, on parle de quelqu'un qui représente la France à l'étranger? C'est tout ça, moi, qui m'intéressait.
Et alors pourquoi?
Et alors pourquoi?
Bah, ce qui est intéressant,
c'est qu'il n'y a pas que ces pourquoi-là, c'est pourquoi il s'exprime pour changer la charte des droits d'image du joueur de foot.
C'est un entrepreneur déjà, et c'est quelqu'un qui pense le foot finalement comme un Américain. C'est-à-dire qu'on est d'abord sur un joueur de NBA qui pense stats, mais qui construit sa carrière finalement comme on va bâtir un business plan.
Et qu'est-ce qui a fait en fait qu'il ait eu cette réflexion au départ? Qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il veut se comporter comme LeBron James, Kobe Bryant, ou gérer les contrats de cette façon-là? Qu'est-ce qui fait que on a l'impression que sa mère a appris par cœur le mode de fonctionnement de la maman de Jordan? Elle réagit. Il suffit de voir R. Quand tu vois comment.
T'as raison sur les modèles, c'est exactement ça.
La maman de Jordan, on a l'impression qu'elle veut faire exactement la même chose.
Ces références sont des références américaines. Tu parlais justement de NBA, tu parlais de Kobe, tu parlais de LeBron. On est dedans. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur quelqu'un qui va penser finalement sa carrière autrement. Il n'a pas le même type de référentiel que le footballeur classique et surtout que le footballeur de son âge.
Sauf que ce qui est curieux, c'est qu'on peut comprendre qu'il a envie de ça, que cette mentalité le fascine et qu'il veut évoluer de cette façon. Sauf qu'il n'est pas dans un contexte US.
Exactement.
Et que cette mentalité-là ne plaît pas du tout en France culturellement et qu'elle choque ici.
Est-ce que tu penses que ça choque vraiment?
Ah oui, dans le monde du foot, oui. Dans les amateurs de foot, oui. Alors après, certainement plus sur les réseaux, qui s'excitent autour de ça, mais je le vois même dans les émissions, dans les débats entre nous, il y a des gens qui, cette mentalité, ils ne l'intègrent pas.
Mais d'ailleurs, il faut quand même dire aussi que, moi je suis le provincial de la journée là, que dans les cours d'école, dans les stades, dans tous les clubs de France, l'idole c'est Mbappé, hein. Nous, les querelles qu'on peut avoir sur Mbappé, ça concerne une minorité de supporters parisiens et un peu nos guéguerres d'éditorialistes. Mais enfin, en termes de ce qu'il représente en France, il y a quand même une unanimité derrière lui. Il faut pas non plus
dans les stades,
le voir.
Il est quand même un peu sifflé en province, comme tu dis.
En région.
Non, mais c'est toi qui as dit ça comme ça. Ouais. J'ai repris ton expression. Dans des stades, il va être sifflé. Il y a eu un parallèle extrêmement intéressant fait dans l'équipe cette semaine sur la façon dont Platini est parti et dont Mbappé s'apprête à partir.
Ces
mentalités-là, on n'aime pas beaucoup.
Mais socialement, il représente autre chose.
Comme Depardieu, avant toutes les histoires, mais Depardieu quand il part à Hollywood faire Christophe Colomb, il y a les papiers dans le monde sur Depardieu qui était le cinéma d'auteur français.
Donc c'est bien ce que je te dis. On a un problème avec cette mentalité-là dans un pays culturellement. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il était séduit par ça au point de dire je vais quand même certainement me brouiller avec beaucoup de gens dans mon pays?
Je pense que d'abord il y a un talent, il y a un ego, Il y a une manière de se concentrer d'abord sur lui-même. Il écrit son histoire pour l'histoire. Et après, les autres regardent. Et on le voit dans le rapport qu'il a avec les supporters du PSG. Il les considère un peu comme des spectateurs. Et il n'y a pas ce lien de passion.
C'est vrai.
Javier Pastore, par exemple.
C'est vrai, on en parlait
encore avec l'équipe de Paris United tout à l'heure. On est vraiment là-dessus. Il crée pas le même type d'émotion. Edinson Cavani fait réagir. Mbappé, tu le vois, c'est un monstre froid qui score. Et il te dit, regardez, vous êtes pas content? But.
Et d'ailleurs, c'est ce que
il ne crée pas de lien affectif.
C'est ça, exactement.
Mais c'est ce qui ressort du bouquin aussi, c'est que tu cites un sondage Odoxa où on voit que sa cote de popularité en fait baisse année après année, qu'il était au top il y a 4 ans, que là il a perdu 10% par rapport à 4 ans.
C'est ce que je vous disais. Parce que c'est peut-être triste à dire, mais peut-être parce qu'il ne souffre pas assez.
Il y a ça
dans le personnage Mbappé qui est le surhomme un peu. Il a pas le côté Richard Anconina ou le côté
pourquoi cette ref?
Si, parce que parce que sa tête un peu de chien battu, tu sais, il avait un côté quand même bien.
Ah, pas dans La vérité c'est Jean alors.
Non, pas celui-là. Pas d'autres,
c'est l'épreuve du héros, on a pas besoin de le voir souffrir.
Tout lui réussit quoi.
Il a jamais eu vraiment de gros coups durs.
Non, Platini, il a la tête d'une équipe malheureuse en 82.
Oui, 82, mais c'est le moment où il est le plus aimé. Mais après, quand il part juste
Mbappé,
après.
Mbappé, il a juste un moment noir, c'est le pénal contre la Suisse.
Voilà.
C'est son seul moment sombre.
Moment noir personnel.
On doit faire une dernière pause ce soir dans cette affaire et on continue la discussion avec Jean-Baptiste Guégan, l'auteur de Révolution Mbappé, avec Thibault Leplat, avec Daniel Riolo. 32-16, si vous voulez venir, n'hésitez pas. On peut se poser la question. Mbappé révolutionne-t-il le football? On est en direct jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Thibault Piongrande.
Il est 23h50. Merci d'être là, Daniel Riolo, Thibault Leplat, Jean-Baptiste Guégan, l'auteur, pas le chanteur, évidemment, auteur de Révolution Mbappé aux éditions Michel Lafon.
Ça faisait longtemps pour le chanteur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de pub pour le chanteur Jean-Baptiste Guégan.
Oui, il fait sa petite carrière maintenant de chanteur. Facile d'être un homonyme comme ça. Bon, après, on
s'en à partir du moment où on achète mon bouquin, ça me va.
Ouais, bon, parfait. Tu vois, ça parlait de Richard Anconina dans Les Sous-doués, Footix Mania. Non, tu confonds totalement avec Daniel Auteuil. C'est vrai qu'il y a quelque chose
grave là. Attention, ouais.
Anconina, rôle principal dans Camping 2, notamment. Révolution Mbappé, c'est le titre de ton livre, Jean-Baptiste. On continue d'en parler avec vous au 32-16. On était justement sur l'amour ou le manque d'amour de Kylian Mbappé. Et à un moment donné, un intervenant pose la question. On le regarde, on l'admire, mais l'aime-t-on vraiment?
C'est la vraie question, c'est-à-dire qu'on le regarde comme il est, c'est-à-dire c'est un professionnel, il vient, il livre sa prestation et il s'en va. Il n'y a pas de relation avec finalement ce qu'il regarde, c'est cette distance-là. On a l'impression de suivre quelqu'un quand on va au stade, que ce soit au parc ou ailleurs, qui finalement n'est pas là, avec lequel on ne peut pas avoir de lien. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment fort de communion avec les ultras, par exemple, au parc?
Non, mais ça, je suis absolument d'accord là-dessus. Ça, c'est un truc qui ne corrigera jamais, puisqu'en plus, il va partir. En fait, le meilleur buteur de l'histoire du club va s'en aller. Et je pense qu'au final, évidemment, on reconnaîtra son talent, mais il y aura beaucoup de joueurs dans l'histoire que les supporters du PSG préféreront.
Paoletta raille, les larmes de raille.
Absolument, mais ça, je suis d'accord.
La sortie du joueur va compter aussi. Est-ce que d'ici là, il aura réussi?
Est-ce que ça, d'après toi, il l'avait dès le départ, ou est-ce qu'il l'a également entretenu? Est-ce que le rôle de son père et sa mère dans cette construction-là, on l'évalue?
L'entourage est prépondérant pour accompagner un talent et un ego hors norme qui est aussi typiquement un précoce. C'est-à-dire qu'il part du principe que l'autre, quel qu'il soit, est son égal et qu'il lui parle d'égal à égal. À partir de ce moment-là, ça change le rapport. Et on l'a vu dès Monaco. Il construit des rapports de force et il les gagne. Jardim veut pas le faire jouer au départ. Et il joue. Ensuite, quand il arrive au PSG, il arrive dans l'ombre de Neymar, il fait allégeance. La saison d'après, il est champion du monde et l'autre l'est pas. On est quand même dans cette logique-là où il va littéralement repousser les frontières, au point que certains ont appelé le PSG le Mbappé PSG. Ça dit aussi quelque chose. Ce rapport-là, est-ce qu'il le construit? Je pense que c'est le fruit à la fois de l'entourage, d'un talent hors norme, d'un ego et de sa personnalité qui, au fur et à mesure,
s'est renforcé. Est-ce qu'il a déjà donné, parce qu'en plus, en interview, il a toujours des phrases un peu fortes, c'est un type intelligent.
Mais, brillant, ouais.
Donner des interviews où il aurait quelque chose à partager avec les supporters du club, où il pourrait, je sais pas, déclencher une sympathie, une affection.
On ne sait pas ce qui va se passer quand il va arriver au Real, Daniel, parce que comme c'est le club dans lequel il veut jouer depuis gamin, peut-être que là, il va peut-être fendre un peu le, l'armure et peut-être
qu'il, est-ce qu'il,
le
est-ce
club est différent. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il va peut-être, il va réaliser un rêve d'enfant.
Voilà, il est.
Il fait un choix. Il fait un choix émotionnel. Hein, le choix du Real.
Ouah, moi, j'ai du mal à croire qu'il y a un choix émotionnel.
Il aurait pu aller en première ligue.
Je crois pas.
Il fait le choix de l'histoire aussi.
C'est quoi le choix? Parce que c'est pas l'argent non plus. Il en gagne trois fois moins.
Le choix du prestige. C'est le choix de la construction de carrière.
Mais il est depuis gamin.
C'est quand même quelqu'un. Tu dois le savoir évidemment. On le dit pas assez. Tout le monde le sait. Qui est suivi depuis plus d'un an maintenant par Antoine Leroy. Qui fait un doc pour Netflix. Ouais. Il est suivi absolument partout. Ce gars-là a ses entrées partout, auprès de la famille. Hein. Donc, cette mise en scène-là, pour qu'un jour ce doc voie le jour, tout est construit à
maîtriser.
Maîtriser avec le départ, pour que ça se termine sur le départ et l'arrivée au Real. Et je pense que c'est à ce moment-là, je crois que c'est prévu la sortie.
Ouais.
Ils ont obtenu quand même qu'ils puissent aller partout dans le PSG, machin. En fait, c'est le seul finalement qui arrive à suivre le joueur et qui recueille ses impressions. Je pense qu'ils seront dans l'avion pour aller à Madrid. Je pense qu'ils seront. Il va y avoir toutes ces images là. Et c'est un peu comme s'il avait privatisé ses sentiments et qu'il ne donnerait rien du tout en dehors de ce doc qui a dû être forcément vendu cher et que tout était toujours du business.
On va voir. On sera peut-être déçu aussi. Hein.
Alors moi,
par le doc. Bah ouais. Ça se trouve, il va rien dire dans le doc.
Ça me fait penser à deux choses. La première, c'est le The Last Dance de Jordan, où il réécrit son histoire finalement sur.
Oui, parce que plein de gens l'ont
matin là. The Last Dance, il le réécrit, mais il a 20 ans plus tard.
Voilà,
avec le recul de l'âge, avec.
Et avec plein de gens qui ont contesté les versions.
Exactement. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, ça me fait penser aussi à ces gens qui vendent finalement à Paris Match ou à d'autres médias l'exclusivité de leur mariage en disant voilà, vous payez tout. Et ben moi, j'ai l'impression qu'il y a cette rencontre-là, c'est-à-dire d'un monde avant, celui des années 90, avec un monde complètement différent qui est celui des réseaux sociaux, d'une maîtrise complète et professionnelle de l'image. Lui, il est plus fort encore que les autres. Il attend pas les 20 ans nécessaires pour écrire l'histoire. Il dit c'est mon histoire. J'ai décidé d'écrire telle quelle. C'est moi qui tiens littéralement le pinceau, la caméra, le stylo.
Est-ce qu'il révolutionne vraiment le football au final? Est-ce qu'il est en train de...
C'est pas vraiment le football, c'est le rapport.
C'est autour. C'est le rapport au football, c'est le rapport qu'on a à ces stars. Souvenez-vous de Zidane.
Alors, pour que ce soit une vraie révolution, Mathis, il faudrait que, après Mbappé, les autres fassent la même chose. Que ça devienne la nouvelle norme. Est-ce que ce sera la nouvelle norme?
Est-ce qu'il peut être une inspiration?
Peut-il faire école?
Peut-il faire école? J'adore cette question.
Je ne sais pas.
Et ça, c'est une vraie question. On verra ce que va faire la génération qui monte. Est-ce qu'ils vont faire comme lui? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire?
Mais il faut être fort comme lui pour faire ça. Si t'es pas fort et que tu te mets à avoir un mec qui te suit tout le temps pour un doc, si t'es pas fort comme lui et que tu sors des punchlines comme lui ou que tu veuilles gérer ta carrière comme LeBron James, on va se foutre de ta gueule.
Par contre,
on va se foutre de ta gueule.
Par contre, une boîte d'agents, par contre, toi-même devenir une sorte de référent moral, un peu comme LeBron James. Encore une fois, ça peut être un destin à travers son association, notamment il le fait déjà.
Il
faut
faire attention, le référent moral. Et il a voulu faire indirectement de la politique. Ça a été il l'a fait qu'une fois, mais ça a été une catastrophe totale. Son intervention et son tweet Naël, terrible, terrible.
Ouais, ça on en parle.
Je pense qu'on ne lui reprendra plus d'ailleurs.
Je pense qu'il a. Il y a eu le char à voile qui a été raté aussi un peu.
Ouais.
Il a rigolé, mais c'était plus Galtier le char à voile. Ouais. On se rappelle plus de Galtier.
Mais c'est intéressant sur l'engagement et la capacité à faire école, parce qu'on se dit une chose, finalement, il sort des habitudes. Tous les autres joueurs, on les aurait fracassés. Lui, au contraire, on accepte, on se demande jusqu'où il peut aller, il nous surprend à chaque fois. Et la vraie question, c'est est-ce que d'autres vont être capables de marcher dans ses pas et d'aller encore plus loin? Aujourd'hui, en tout cas en France, c'est compliqué d'envisager ça. Maintenant, on pensait Thierry Henry, par exemple, qu'il était unique. On a quelque chose de différent qui arrive, encore plus
Henry
maîtrisé.
Henry avait exactement le même problème. Hein. Voilà. Il était réputé comme plutôt assez antipathique. Il souriait pas. On lui reprochait de pas sourire quand il marquait.
Mais il n'y avait pas tout un écosystème.
Henry est devenu sympathique très récemment, grâce à ses émissions sur CBS. Et ensuite sur Prime, où il a été...
Il a humanisé l'image.
Mais même quand il était entraîneur à Montréal, quand il était entraîneur à Monaco, il était particulièrement sympathique.
Peut-être que Mbappé dans l'after dans 10 ans, l'image va changer.
Moi, je pense que c'est un type très intelligent, mais c'est encore un joueur c'est encore un jeune homme. Il est encore très jeune.
Il a 25 ans.
Donc on peut pas lui demander d'avoir le recul que peut avoir maintenant Henry ou Jordan sur sa carrière. Jordan, à l'époque, voilà, il est du premier degré. Maintenant, tu as différentes épaisseurs. Quoi. Il faut aussi que le cuir s'épaississe. Il faut aussi que peut-être qu'il fende un peu plus l'armure, parce que j'imagine que ce garçon a quand même aussi parfois des émotions. Et que c'est pas forcément planifié, mais que c'est pas parce que c'est planifié que ça a pas de valeur. Et donc voilà, peut-être que c'est ça l'issue pour qu'on s'identifie véritablement à lui. Il faut à un moment ou à un autre, comme dans toutes les bonnes histoires, que le héros souffre un peu, qu'il soit un peu humain.
Et qu'il parle à notre génération.
Comme Richard Anconi.
Mais ça a été le cas dans l'affaire Naël, c'était le cas. Hein. Une génération s'est retrouvée dans ce moment-là.
Révolution Mbappé, c'est signé Jean-Baptiste Guégan, Clément Pernia aux éditions Michel Lafond. Alors, le problème, c'est que la couverture sera peut-être plus d'actualité dans quelques jours. T'aurais dû mettre un maillot de l'équipe de France, tu vois. Là, tu l'as mis avec le maillot du PSG. Pour Dodo, ça passe. Pour l'instant. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'être venu, Jean-Baptiste.
Merci.
À très bientôt dans l'after. Thibaut et Daniel, merci les gars. On se retrouve demain avec beaucoup d'équipes de France au programme, notamment.
Bon, beaucoup. On va se calmer quand même, non?
Ouais. Bon, on fera des JO, si tu veux.
En tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est envoyez-moi genre sommaire à 17h pour pas du tout que ce soit la même chose après.
Alors là, c'est vraiment l'hôpital et la charité dans la même personne.
Moi, j'avais dit.
Il fallait qu'il change de conducteur toutes les 5 minutes.
Non, parce que moi, ce matin, on avait dit, on avait fait une première version et tout. On devait parler un peu un petit bilan droit télé.
Ah bah finalement, je sais pas, Jérôme m'a dit on le
fait
plus.
J'ai pas reçu moi ce mail.
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai pas reçu ce mail.
Moi c'est avec Jérôme.
On le fera demain. Ah bah, on le fera. Moi, on le fera demain. Mais le problème c'est que si t'avais été moins long sur les JO, on aurait peut-être eu le temps de le faire.
Non, on devait parler de droit télé, de Bein qui va tout rafler, de l'abonnement unique,
Parquet financier. Ouais,
je l'avais déjà dit. Ça c'est pour le dossier CVC, du Parquet national financier.
Ça va être très intéressant.
Et si j'ai le temps demain soir, il est possible qu'il y ait un petit bilan là-dessus parce que je vais avoir des gens au téléphone demain là.
On va prendre le temps. Bon, en tout cas, t'as compris, Jérôme. Programme, c'est avant 17h et on bouge plus. Merci les gars, bonne soirée. Merci à Max du Standard et merci surtout à vous d'être là fidèles. L'After revient demain, Génération After dès 20h, l'After 22h. N'oubliez pas aussi, tiens, les podcasts, club hein, toujours dispo, After Paris, After Marseille, After Lyon, ils sont tout frais de cette semaine, n'hésitez pas à les cliquer si vous voulez encore un peu d'After. Ciao tout le monde.
RMC, l'After Foot.